Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce soir, nous allons plonger dans les histoires de maisons hantées à travers les siècles grâce à un excellent livre intitulé Maisons hantées et qui a pour sous-titre Histoire de Poltergeist, paru aux éditions Imago. L'auteur, Claude Lecouteux, est mon invité ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de littérature et de civilisation du Moyen-Âge à l'université de Paris 4, à la Sorbonne. Jusqu'à présent, vous vous êtes intéressé aux êtres fantastiques comme les démons, les génies, les elfes, les nains. Qu'est-ce qui vous a entraîné vers les phénomènes de poltergeist?
Si vous voulez, c'est la suite tout à fait normale de mes études sur les ressortissants des croyances populaires que vous venez d'évoquer, parce que ils avaient un certain nombre de points assez bizarres, comme mettre le désordre dans une maison, jeter des pierres, etc. Et finalement, ça a fini par me mettre la puce à l'oreille. Et je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui est étrange, parce que ça correspond assez bien au phénomène des esprits frappeurs que l'on a relevé à partir du 19e siècle.
C'est tout à fait exact. Et d'ailleurs, je l'annonce, on va développer tout cela évidemment pendant cette émission, mais les amoureux du petit peuple dont je fais partie, leur imaginaire risque d'en prendre un coup parce que vous venez de citer les lutins. Derrière le mot lutin, eh bien, les trois quarts du temps se cachent des phénomènes de poltergeist. Je serais même tenté de dire malheureusement, de rajouter malheureusement, mais l'imaginaire reste encore là. Claude Lecouteux, vous restez avec nous, on va continuer ensemble. Je signale que vous donnerez bientôt une conférence sur le thème de votre livre Maison hantée à l'Institut Métapsychique International à Paris. Ce sera en décembre.
Oui.
Et pour plus d'informations, eh bien, j'invite ceux et celles qui nous écoutent à se diriger vers le site internet de l'IMI. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Claude Lecouteux est mon invité ce soir sur Sud Radio. Claude Lecouteux, professeur de littérature et de civilisation du Moyen-Âge à l'université de la Sorbonne, Paris 4, auteur d'un livre que j'ai trouvé passionnant, Maison hantée, paru aux éditions Imago. Alors, j'ai découvert, Claude Lecouteux, dans votre livre, que l'origine du mot poltergeist, c'est un mot ancien qui date du 16e siècle environ.
Oui, c'est là, disons que c'est dans la première moitié du XVIe siècle qu'il fait son apparition dans les écrits. Et vous savez très bien que quand un mot apparaît dans un dictionnaire, puisque c'est sa première occurrence, c'est qu'il a déjà une certaine vie et suffisamment pour être recueilli par les érudits.
Donc, il est déjà plus ancien.
Donc le phénomène remonte au minimum, je dirais le mot remonte au minimum à un siècle avant.
Alors, il se compose de deux autres mots. Entrons un petit peu, si vous le voulez bien, dans le détail.
Alors, si vous voulez, c'est un mot composé qui comporte le mot geist, qui correspond à l'anglais ghost et qui veut dire simplement, grosso modo, esprit. Mais en fait, ce terme désigne tous les êtres fantastiques sur lesquels on s'interroge et sur lesquels on n'arrive pas à mettre une étiquette exacte. Et il se compose ensuite du verbe poltern, qui veut dire faire du vacarme, faire du tapage, et donc poltergeist se traduit tout naturellement par esprit tapageur, mais on a accrédité depuis fort longtemps la notion d'esprit frappeur.
Et ce mot a été utilisé la première fois par qui et dans quelles circonstances?
Alors, il a été utilisé la première fois dans le dictionnaire de Albert Erasmus, vers 1540, mais ensuite c'est Martin Luther, le grand réformateur, qui l'a régulièrement utilisé dans ses propos de table, où là vous avez des histoires à vous faire dresser les cheveux sur la tête, parce qu'évidemment pour Luther, le poltergeist, c'est le diable.
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je vous demanderai tout à l'heure de nous rapporter un témoignage de Martin Luther qui a vécu lui-même ce qu'on appellerait maintenant des phénomènes paranormaux.
Tout à fait.
Mais avant ce mot poltergeist, remontons encore un petit peu le temps. Pour décrire le même phénomène, les personnes, les auteurs utilisaient d'autres noms comme kobold, par exemple.
Oui, alors il y a eu une confusion absolument extraordinaire entre kobold, qui étymologiquement signifie simplement celui qui règne sur la maison et qui est à l'origine un génie domestique, hein, mm-hmm. un peu comme les pénates romains, et qui a exactement les mêmes caractéristiques. La seule différence, si vous voulez, c'est que le kobold, si ses actes sont identiques, en fait est classé parmi ceux que l'on appelle les nains, donc terme générique et fourre-tout sous lequel vous avez une population très diversifiée.
Mmh. Juste une parenthèse, qu'est-ce qu'un pénate romain? Parce que je connais l'expression et je viens d'en découvrir l'origine, donc je rejoins mes pénates, je regagne mes pénates.
Voilà. Ce sont les dieux domestiques. Si vous voulez, dans chaque maison romaine, vous aviez un petit autel avec les pénates qui étaient donc les dieux protecteurs de la maison. Ce que l'on retrouve au Moyen-Âge, par exemple, chez nous, tout simplement sous la forme des fameux génies domestiques auxquels vous faites des offrandes régulièrement pour avoir la prospérité, la santé, le bonheur.
Oui. Eh bien voilà, donc j'ai encore appris quelque chose ce soir, décidément. Alors, Claude Lecouteux, en vous plongeant dans des livres anciens, beaucoup, vous avez découvert que ce phénomène donc de poltergeist, en fait, existait depuis fort longtemps.
Oui. Alors, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a essentiellement traité des poltergeists à partir du 19e siècle, hein, dans la grande mouvance du spiritisme, du magnétisme, etc. Mm-hmm. Mais qu'en fait, le phénomène a toujours existé, puisque c'est normal. Hein, on sait aujourd'hui qu'il s'agit de phénomènes de psychokinèse sauvage, tout simplement, donc de déplacement d'objets à distance la force de l'esprit. On sait aussi quand, scientifiquement, se produisent ces phénomènes. En général, ce sont chez des adolescents en crise, mm-hmm. à un certain âge.
Ouais. En tout cas, ils ont pour origine le vivant, c'est-à-dire être humain dans les parages.
Voilà, ça n'a rien ni de diabolique ni de surnaturel. Hein. Ça a été très très bien étudié, notamment par mon ami Philippe Vallon, qui est chercheur à l'INSERM. Donc, il n'y avait aucune raison pour que, d'un seul coup, au 19e siècle, on ait une véritable explosion de phénomènes d'esprit frappeur et qu'on n'ait rien avant. À partir du moment où c'était humain, ça avait existé bien longtemps avant. Mm-hmm. Donc je suis parti, si vous voulez, de cette piste pour remonter et en m'appuyant sur une typologie des faits, des manifestations.
Oui. Vous avez fait une véritable enquête de policiers, mais vous avez dû rencontrer énormément de difficultés à retrouver les traces de poltergeist à travers l'histoire, sachant que les phénomènes d'esprit frappeur, de poltergeist donc, étaient nommés de manière totalement différente.
Voilà, alors si vous voulez, la difficulté de l'enquête, ça a été déjà de réussir à faire abstraction des interprétations qui étaient proposées par les auteurs qui rapportaient des faits, et d'examiner très attentivement le vocabulaire qu'ils utilisaient pour voir si on n'avait pas un texte sous-jacent, en fait, qui nous apportait des informations capitales. Hein, nous, dans notre jargon, on appelle ça un métatexte, donc un espèce de palimpseste qu'il fallait lire. En évacuant la couche, disons, plus moderne ou plus supérieure, en évacuant les interprétations des rapporteurs pour trouver le fait brut de décoffrage.
Ouais. Si je puis me permettre, c'est presque partir à l'aveuglette.
Non, si vous voulez, parce que ça, c'est pas ma première enquête. Hein. J'en ai fait de très nombreuses et ça m'a permis de développer depuis longtemps une méthode d'analyse qui est pluridisciplinaire. Et grâce à cette pluridisciplinarité, on arrive très très bien, notamment à l'aide de la linguistique enfin des sciences philologiques, disons, à retrouver ce qu'il y a derrière un texte.
Mmh. Mais alors, dans quelle direction avez-vous cherché? Parce qu'il y a des textes que vous êtes allé chercher dans l'Antiquité, je pense à Pline le Jeune, par exemple, oui, que vous citez. Un peu plus proche de nous, vous l'avez dit, le réformateur Luther.
Oui.
Ensuite, des textes du Moyen-Âge dont vous êtes le spécialiste, donc là, ça a dû être un peu plus simple. Il a dû falloir manipuler énormément de papiers, si je puis me permettre.
Ben oui, l'enquête a duré 5 ans à peu près, hein. Et si vous voulez, j'avais déjà un avantage, parce que comme j'avais réalisé des enquêtes sur les nains et les elfes d'une part,
oui,
et sur les morts, les fantômes, les revenants et tout leur type de manifestation,
ça aide.
Je disposais déjà d'un corpus conséquent.
Mm-hmm.
Il fallait simplement relire le corpus dans une optique différente.
Oui.
Et puis ajouter bien sûr de quoi l'éclairer par de nouveaux textes.
Mmh, tout à fait. Alors, racontez-nous, je suppose que vous l'avez encore en mémoire, un témoignage que vous avez retrouvé de Martin Luther lui-même.
Oh bien, c'est pas très très compliqué, si vous voulez. Martin Luther, lui, était dans sa chambre à la Wartburg, hein, et puis un jour, il a reçu des noisettes, par exemple.
Ouais.
Enfin, il a reçu des objets et il en a déduit automatiquement que le diable l'attaquait. Alors ça, c'est tout simple, si vous voulez, parce que pour Luther, il n'y a aucun doute.
Ouais.
Les objets venaient de derrière le poêle et le derrière du poêle, à cette époque-là, s'appelait l'enfer.
Ah oui.
Vous voyez, en allemand du XVIe siècle.
Mm-hmm.
Donc, eh bien, ça venait de l'enfer, c'était donc une manifestation diabolique.
Oui. Et en poussant un petit peu plus loin, vous ne le faites pas d'ailleurs, vous cantonnez, si j'ose dire, à porter les faits à la connaissance du lecteur, mais en vous gardant bien d'en apporter une explication ou une interprétation.
Ben, si vous voulez, il y a une chose. Bon, j'ai dépouillé beaucoup d'ouvrages qui avaient été écrits sur les poltergeists. Et tous ces ouvrages, notamment les ouvrages assez anciens, sont entachés d'un parti pris ou d'un présupposé, c'est-à-dire, moi je pense ceci, et donc je vais vous le démontrer.
Mmh.
Et moi, c'est pas du tout mon optique, c'est-à-dire, je m'arrange pour regrouper les faits, les présenter, en proposer une analyse, et en laissant au lecteur le soin de se faire son idée personnelle.
Ouais.
Normalement, si j'ai bien présenté le dossier, il doit arriver grosso modo aux mêmes conclusions que moi.
Mm-hmm.
Mais ce n'est pas à moi d'imposer mes conclusions.
Ouais.
Surtout sur des sujets aussi sulfureux.
entre parenthèses, vous êtes prof à la Sorbonne.
Oui.
Ce qui est quand même un très bon niveau.
D'accord.
Oui. Mais comment vos autres collègues perçoivent vos écrits?
Bah justement, si vous voulez, c'est là, à partir du moment où vous écrivez, disons, pour un large public, hein, pour plus de 200 personnes, de 200 happy views. Hein.
Oui, ça c'est un amphi, ça.
Voilà, c'est ça. Ouais. À partir de ce moment-là, il faut être extrêmement prudent, parce que on va vous juger sur ce que vous racontez, la façon dont vous le racontez, la nature de votre documentation, etc.
Bien sûr.
Et il y a une question, si vous savez, les réputations, ça se fait, ça se défait très vite.
Oui.
Voilà. Ouais. Alors, moi, je passe déjà pour un folkloriste.
Ce qui est le degré zéro, vous dites, hein, dans votre
c'est ça.
À la Sorbonne, c'est pas un compliment, ça.
Non, pas du tout.
Ouais.
Bon, en fait, c'est de l'anthropologie culturelle, mais disons les bienveillants disent anthropologie culturelle et les autres disent folkloriste. Quoi.
D'accord. Ok.
Voilà. Mm-hmm. Donc on est obligé d'avoir, si vous voulez, une tenue universitaire quand on écrit. Hein. Ça, c'est obligé.
Bien entendu. Et puis, ne serait-ce que par amour de son métier.
Ah, tout à fait.
Ça,
moi, je peux pas écrire des bêtises.
Et il n'y en a pas. Enfin, du moins, je n'en ai pas relevé dans votre livre, dont je rappelle le titre. D'ailleurs, c'est La Maison Hantée aux éditions Imago. Et alors, vous avez mis en sous-titre Histoire des poltergeists.
Oui.
J'imagine que le titre La Maison Hantée, c'est plutôt votre éditeur qui vous l'a soufflé.
Oui, c'est exact. C'est exact. Moi, c'était Histoire des poltergeists, hein, comme j'avais écrit une histoire des vampires, etc., pour bien situer le fait dans l'analyse et non pas dans l'élucubration, quoi.
Oui. Et puis la maison hantée, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus vendeur. Et là, c'est le rôle de l'éditeur, c'est son métier.
Oui, mais en fait, il a repris ce que je disais, je crois que c'est dans l'introduction, où je disais qu'il fallait reprendre de A jusqu'à Z le dossier des maisons hantées. Parce que jusqu'à maintenant, lorsqu'on dit maison hantée, on imagine tout de suite des fantômes ou des revenants, point final. Or, le livre que j'ai écrit, là, démontre que vous avez une foule d'autres manifestations qui hantent les maisons.
On peut, puisque nous sommes ce soir sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'Étrange, donc un petit peu en dehors de votre ouvrage, revenir et peut-être aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Reprenons ce qu'a vécu par exemple Martin Luther. Ces noisettes qui sont sorties de l'enfer, l'enfer c'est comme ça que l'on appelait l'arrière du poil, et qui sont venues le frapper, là un psy se régale, pour lui il joue sur du velours là.
Ah oui, d'accord, mais je crois tout de même que pour vos auditeurs, je vais rappeler exactement l'histoire de une des histoires de Luther.
Allez-y, hein. Allez-y.
Alors, il y a un prêtre qui lui a écrit et qui lui a dit le diable mène toute la nuit dans ma maison un vacarme, un énorme fracas, donne des coups, jette des objets, il casse tous mes plats, les récipients de bois et ne me laisse pas en paix. Alors, évidemment, il développe, le prêtre en question se développe de ça, développe ce point. Il ajoute que on se moquait de lui. Plus d'une fois, j'ai entendu rire le diable, mais je ne l'ai jamais vu. Et ce jeu et ces manifestations durèrent toute une année. Si bien que ma femme et mes enfants ne voulurent plus rester chez moi, mais déménager sur le champ. Alors ça, c'est le rapport donc de ce prêtre à Luther. Réponse de Luther. Alors là, c'est simple, c'est lapidaire. C'est une illusion diabolique que l'on peut dissiper par la prière.
Voilà.
Et c'est toujours comme ça, si vous voulez, dans les témoignages du XVIe siècle. Alors ça va même plus loin, parce que les protestants de cette époque-là ont été jusqu'à dire que c'était une invention du clergé catholique,
évidemment,
tous ces phénomènes, qui faisait ça de façon à gagner un peu plus d'argent, en vendant des exorcismes et des bénédictions. Alors, on a, si vous voulez, une très très amusante controverse avec les uns qui disent « mais pas du tout, c'est un phénomène qui existe, c'est diabolique, etc. » Et puis les autres qui disent « bah non, ce sont non pas des illusions, mais des manipulations, des trucages. » Mais ça, on retrouve la même interprétation au XIXe siècle.
Oui, tout à fait. À la fin de votre ouvrage, vous synthétisez un petit peu votre parcours, votre étude sur ces cas de poltergeist à travers l'histoire, sur un tableau. Un tableau dont j'aimerais que vous nous parliez maintenant, c'est-à-dire la notion de poltergeist, comment elle a été traduite à travers le temps.
Ah oui, ça c'est, si vous voulez, le tableau en question. C'est la synthèse, en fait, du livre.
Oui, complètement.
Et c'est ça qui est amusant, mais en général, si on arrive à tout mettre sous forme d'un tableau, c'est que l'analyse devrait être pertinente. Alors, dans les temps anciens, si vous voulez, on a eu plusieurs interprétations. D'abord, tout ça, ce sont des manifestations de mort. Et ça, ça remonte très loin dans le temps, puisqu'on l'a déjà chez les Romains, hein, chez Pline, le jeune notamment, avec la maison hantée en Grèce, là, où le philosophe Athénodore vient s'installer.
Oui, on en parlera, parce que l'histoire est très très belle, en plus.
Elle est belle, hein.
Oui.
Belle, ça ferait un beau court-métrage, je trouve.
Complètement, oui.
Bon, donc ça c'est un... Les morts, donc, sous-tendent jusqu'au XXe siècle la notion de poltergeist. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est essentiellement centré sur le Moyen-Âge et disons grosso modo jusqu'au 19e, mais c'est plus populaire et c'est plus rural. Ce sont des nains, donc c'est un terme générique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des nains, des esprits, des génies, des petits démons du terroir, des démons topiques, etc. Qui se manifestent ainsi parce qu'ils ne sont pas contents.
Oui, et qui restent toujours invisibles, bien sûr.
Oui et non, ça dépend des époques. Moi, j'en ai jamais rencontré. Hein.
Moi non plus, malheureusement. C'est pas faute de les avoir cherchés.
Oui. Et du reste, c'est un des rares livres pour lesquels je n'ai quasiment pas d'illustration. Parce que je n'ai pas pu trouver d'illustration de poltergeist.
Oui, c'est vrai.
Oui. Ben, peut-être que si on avait réussi à les prendre en photo dans les temps modernes, ça serait mieux. Mais rien du tout, là. Même pas, si vous voulez, dans les représentations anciennes où on trouve dans les livres du XVIe siècle ou dans les manuscrits du XVe, on trouve énormément d'illustrations de nains, de lutins, etc.
Ouais.
Mais jamais un esprit frappeur. Ce qui prouve bien que les nains ont recouvert et complètement englobé les esprits frappeurs.
Alors, là, nous en étions donc à une période où les poltergeists s'appelaient esprits frappeurs, les nains.
Oui.
Et ensuite, là, c'était quoi? Le Moyen-Âge chrétien, à peu près. Hein.
Alors, si vous voulez, le Moyen-Âge chrétien, ce sont les nains, les elfes, les kobolds.
Le diable, évidemment.
Les lutins. Oui. Bon, le diable dans la littérature d'obédience religieuse, quoi. Littérature cléricale. On arrive au 16e, le gros dénominateur commun, c'est le diabolisme. Donc le diable est là et omniprésent. Mais de façon sous-jacente, les interprétations du Moyen-Âge continuent à vivre et on les trouve dans ce que l'on appelle à tort les légendes et qui sont en fait des mémoras. C'est-à-dire des courts récits qui transmettent à la postérité un fait que l'on estime digne de mémoire. Par exemple, eh bien, dans telle maison, il s'est passé telle chose à telle date, les lieux sont cités, les personnes présentes sont citées, la date est citée les trois quarts du temps, donc c'est fortement ancré dans la réalité.
Et digne de foi.
Ah, toujours, on avance les témoins. Et souvent, les témoins sont vraiment remarquables. Ça va des ecclésiastiques, y compris haut placés, jusqu'aux édiles, les notaires, etc. Ce ne sont pas, disons, des simplets de village.
Tout à fait. Pour que cet écrit puisse être pris en considération et être étudié.
Voilà.
Mais vous avez dû tomber très souvent sur des textes qui ont été enjolivés, transformés au fil du temps, parce que les textes que vous nous livrez tous dans ce livre sont quand même remarquablement clairs. Je dirais pas que c'est des reporters, quoique dans certains cas ça l'est vraiment, mais les faits sont assez fidèlement reportés finalement.
Oui, alors si vous voulez, c'est vraiment du fait divers, hein. Et évidemment à la mode des différentes époques.
Bien sûr.
Mais lorsqu'on a plusieurs témoignages sur le même fait, on s'aperçoit qu'il y a une dérive qui va s'opérer peu à peu, c'est-à-dire avec une multiplication des micro-détails qui vont orienter l'interprétation du lecteur dans un sens ou dans un autre. Donc en fait, on a un accroissement de détails en permanence et plus le temps passe, plus on s'éloigne du fait réel. Ou supposé réel.
Alors, revenons à cette progression d'interprétation du poltergeist qui prend plusieurs visages au fur et à mesure que le siècle avance. Après le XVIe siècle, nous en arrivons au XVIIe siècle, presque à l'époque contemporaine. Il se transforme sous quelle forme?
Eh bien là, il reste, si vous voulez, sous la forme générale d'un démon au sens grec, un daimon. C'est-à-dire, c'est un être qu'on ne voit pas, dont on suppose la présence, et au même titre, si vous voulez, que les fées, par exemple. Donc, il continue à vivre, mais vous avez bien sûr eu la réaction du siècle des Lumières, qui a dit que tout ça, c'était pas possible, ça n'existait pas. Et puis même au niveau des Lumières, vous découvrez des choses étranges, des individus qui disent, mais non, ça, il y a quelque chose derrière.
Oui, ben, Descartes, par exemple.
Par exemple.
J'ai été surpris, ça, c'est, tiens.
Ben oui, mais même chez des gens comme Voltaire, on trouve des non pas sur les poltergeists, mais sur tous ces êtres-là, on trouve des choses étonnantes.
Oui, sur le monde du merveilleux, notamment.
Ah oui, moi, je me souviens de ce qu'il avait écrit sur les vampires. Voltaire, c'était stupéfiant. On n'imagine pas ça du tout du siècle de la raison.
Et alors, à partir de quand émerge vraiment, donc vous l'avez dit, 16e siècle, le mot de poltergeist existe, mais là, c'est encore avec des connotations religieuses diaboliques.
Oui, tout à fait.
Et alors, la notion moderne de poltergeist?
Oh bah, c'est le 19e siècle. ça alors en plein. Si vous voulez, le grand essor du poltergeist, la fixation du poltergeist avec le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est le 19e siècle.
Ouais.
Ça, c'est après l'histoire aux États-Unis de la famille Fox.
Oui.
Hein, c'est là où tout s'est mis en place et c'est là où s'est fixé définitivement le sens de poltergeist tel que nous l'avons aujourd'hui.
Hein. Oui.
Et alors, le sens de poltergeist dans le sens, finalement, phénomène de psychokinèse.
Oui, phénomène, sauvage. Voilà, qui est dû à un vivant.
Enfin, voilà, à un vivant.
À un être vivant.
Qui est en crise.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et qui, de manière inconsciente, provoque ce genre de phénomène.
Voilà.
Et là, on rentre dans le monde de la psychologie.
Oui.
Voilà.
Même de la psychiatrie, je dirais.
Oui, 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 parfois, oui. Claude Lecouteux, je rappelle que vous êtes mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio à la suite de cet ouvrage publié aux éditions Imago, La Maison Hantée, avec comme sous-titre Histoire de Poltergeist. Vous avez cité à l'instant la famille Fox aux États-Unis avec ses deux sœurs qui ont dialogué avec un esprit frappeur,
oui.
Entre guillemets. Alors, je pensais que c'était elle qui avait inventé ce fameux code, un coup pour oui, deux coups pour non, et entretenir ainsi un dialogue. Or, vous avez découvert que nenni, mon bon monsieur. C'était
oui,
beaucoup plus
oui.
Ancien.
Oui, c'est beaucoup plus ancien. Et, si vous voulez, c'est logique, dans ce sens que on a toujours essayé, du moins au minimum, à partir du XIIIe siècle, on a toujours essayé de communiquer avec les esprits. Et on a des textes des textes écrits par des clercs qui nous disent, voilà, on a interrogé l'esprit et il a répondu ceci. Et on a le déroulement de l'interrogatoire.
Oui.
C'est assez curieux. Mais là, quand l'esprit ne répond pas, eh bien, il fallait inventer autre chose. Et j'avoue que moi-même, j'ai été très surpris de découvrir ce témoignage qui prouve que on avait déjà la même tournure d'esprit il y a 500 ans qu'aujourd'hui.
Oui, racontez-nous un petit peu ce...
Oh non, je ne m'en souviens plus parce que je travaille déjà sur d'autres sujets. je l'ai mis dans le livre.
Oui, 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 tout à fait. Ben, oui, c'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs. Et j'ai été très très surpris, mais en même temps, c'est vrai, comme vous le disiez, c'est... à la fois logique que quelque chose qui frappe de manière violente sur les murs ou sur les meubles, que quand on s'adresse à lui, il refrappe à nouveau, coup, le code s'établit presque de manière naturelle.
Oui, mais et si vous voulez, sous forme de plaisanterie, je dirais pratiquement que c'est l'invention du morse.
Oui, c'est ça.
Un coup long, un coup bref, etc.
Oui, oui, tout à fait.
Donc... Non, mais c'est bon. Et puis alors après, ça a été repris par le spiritisme avec les histoires des tables tournantes. Hein. Esprit, es-tu là? Si oui, frappe un coup.
Oui, oui, oui.
Et comme on dit nous en plaisantant, et si tu n'es pas là, frappe deux coups.
Alors, vous êtes amusé à faire un petit sondage.
Oui.
Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre auprès de vos confrères.
Oui, et étudiants.
Voilà, et étudiants, en leur demandant la définition de poltergeist.
Oui.
Alors.
Eh ben alors première surprise à l'université, beaucoup de gens ignoraient simplement ce que pouvait être un poltergeist. Alors ça, là, pour moi qui travaillais sur le sujet depuis de longues années. J'étais évidemment un peu étonné.
Mmh.
Hein. Et parmi mes étudiants, tout de même, il y avait une bonne connaissance du nom. Et c'est des collègues étrangers qui m'ont donné les meilleures définitions.
Ouais.
Et notamment du côté anglo-saxon, germanique et japonais.
Oui. Ou ça fait partie de leur culture.
Enfin, en quelque sorte, si vous voulez. En tout cas, pour tout le monde anglo-saxon. Alors là, c'est le poltergeist, mais c'est d'une banalité. Ça vaut même pas la peine d'en parler, quoi.
Oui. Oui, oui. Oui, la preuve, une maison qui a son fantôme se vend plus cher en Angleterre qu'une maison qui a son fantôme en France.
Oui et non, parce que j'ai une collègue ethnologue qui a fait une enquête au Pays de Galles,
ouais.
Justement, et qui a rencontré des notaires. Et il y a une clause juridique disant qu'il est absolument obligé de déclarer à l'acheteur potentiel que la maison est hantée ou non. Mais ça ne la fait pas vendre plus cher, hein.
Ah bon?
Non.
Ah, je pensais que c'était une plus-value quand même.
Peut-être en Angleterre, mais pas au Pays de Galles.
Ah bon?
ou peut-être en Écosse.
Oui, 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 oui.
Voilà.
Oui, oui,
mais
oui,
vous
oui.
savez, ce sont des pays dans lesquels vous avez énormément de Ghostbusters, hein, de chasseurs de fantômes, de traqueurs de fantômes, mmh. avec tout un appareil technique et de haute technologie, etc., mesure des champs magnétiques.
Ouais.
Et que sais-je encore.
Bon.
Donc, bon, bah, ça, pour moi, c'est, ça fait partie de leur spécificité.
Tout à fait. Pour en revenir quand même, parce que, on n'est pas allé jusqu'au bout sur ce témoignage de Martin Luther, et on va passer à un autre sujet dans quelques instants après une courte pause. Revenons, est-ce que, à ce témoignage, les petites noisettes qui sortent de l'enfer, qui le frappent, etc. Est-ce que vous avez eu envie, ou avec d'autres amis, d'autres confrères, je pense à Philippe Vallon notamment, de pousser l'analyse un peu plus loin ? C'est-à-dire, qui est le vivant qui produit ce genre de phénomène ?
Alors, le vivant, d'abord, pour réussir à le déterminer dans les anciens textes, c'est relativement difficile.
Oui.
On ne peut procéder que par élimination, si vous voulez. Alors, dans les temps modernes, on procède à l'éloignement d'une personne, de la personne soupçonnée.
Oui.
Si les phénomènes cessent, théoriquement,
on a
c'est bien. Lui le médium, le provocateur, disons, le truchement.
Oui.
Hein. Mais on s'est aperçu, malheureusement, que même l'éloignement ne mettait pas toujours fin au phénomène.
Tout à fait.
Donc, ça, l'enquête, là, devient plus difficile.
Mmh.
Alors, évidemment, on peut utiliser aussi l'hypnose ou des choses comme ça. Mais alors là, c'est un terrain sur lequel je ne risquerai pas parce que je ne suis pas compétent.
Oui, et puis, faire une séance d'hypnose avec Martin Luther, c'est un peu compliqué.
Oui. Non, la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder qui sont les personnages et surtout quel est l'âge des personnages.
Mmh.
Alors, souvent, on constate que ce sont des servantes, hein, aux alentours de 14-16 ans,
ouais.
qui sont au centre des manifestations.
Mmh.
Et puis vous avez d'autres détails, par exemple, la personne est frappée de somnolence ou bien dort, et alors les phénomènes se déclenchent.
Ouais.
Bon, alors là, il n'y a pas de doute, ça doit être, ou ça devrait être elle.
Ouais. Claude Lecouteux, on s'accorde une petite pause. On va continuer évidemment à dialoguer ensemble, à traverser votre livre dont je rappelle le titre, La Maison Hantée, avec comme sous-titre Histoire des poltergeists aux éditions Imago. Et dans quelques instants, vous allez nous expliquer ce qu'est un esprit litobol. C'est litobol. Alors ça, c'est, je connaissais pas ce mot d'ailleurs, je l'avoue humblement. Et puis pour le Scrabble, ça peut faire une bonne rentrée. Vous restez avec nous sur Sud Radio, Claude Lecouteux, on se retrouve dans quelques instants.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Claude Lecouteux, qui est professeur à la Sorbonne, Paris 4, professeur en littérature et civilisation du Moyen-Âge et auteur d'un excellent bouquin qui s'appelle La Maison Hantée, histoire de poltergeist aux éditions Imago, avec énormément de témoignages, non pas recueillis, mais retrouvés dans les archives, dans des livres. Vous êtes remonté, Claude Lecouteux, jusqu'à l'Antiquité. Je vous demanderai de nous raconter d'ailleurs l'histoire qu'a reçu Pline le Jeune. Alors d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un esprit litobol avec un exemple ? Je vous le rappelle, c'est page 48. Comme ça.
Merci, c'est gentil. C'est gentil parce qu'effectivement, je connais pas, avec la mise en page, je connais pas tout par cœur.
Voilà, esprit litobol est mort sans sépulture.
Voilà, litobol, c'est simplement le mot savant pour dire lanceur de pierre.
Mmh.
Donc, un esprit litobol, c'est celui qui lance des pierres, mais il n'y a pas que des pierres, n'importe quel objet.
Ouais.
Par exemple, des briques, de la cendre, des immondices, des meubles, on a vraiment de tout. Hein.
Mmh.
Et notamment, qui déplace les meubles aussi.
Ouais.
Donc, c'est vraiment une force qui se manifeste et qui finalement terrorise. Imaginez-vous, chez vous, tranquillement, là, le soir, en train de regarder, je sais pas moi, votre émission préférée.
Non, d'écouter Sud Radio,
ou
les aventuriers de l'étrange.
Radio, hein, c'est comme... Bon, et puis d'un seul coup, votre radio se met, s'élève, et puis va se fracasser contre votre bibliothèque.
Mm-hmm.
Qu'en penseriez-vous ?
Oui, oui, c'est vrai que hein, c'est...
Ou bien elle vient droit sur vous, elle s'arrête à 1 centimètre de votre visage et tombe par terre. Parce que le, ce qui est intéressant dans ces phénomènes de lithobolie, c'est qu'ils défient toutes les lois de la physique.
Mm.
C'est-à-dire que la course des objets dans l'air est impossible, disons, physiquement.
Oui.
Hein, l'objet va faire une espèce de courbe, il va ralentir, il va tourner, enfin, c'est des choses étonnantes.
Oui. Tous les récits que vous relatez dans votre livre, parce que c'est quand même le socle, sont, rappelons-le, selon vous, dignes de foi, parce que certains récits sont à ce point extraordinaires qu'on a envie de les mettre sur le coup de l'imagination, de la romance,
oui.
Alors qu'il n'en est rien, rappelons-le. Hein.
Non, pour les gens qui le rapportent, c'est un phénomène vécu.
Mm.
Et si vous voulez, ils sont persuadés, bon, à tort ou à raison, mais ils sont persuadés que c'est exact.
Ouais, ouais, ouais. Racontez-nous ce qu'a vécu un saint, parce que les saints finalement ont vécu énormément de phénomènes extraordinaires.
Oui, alors c'est un peu normal si vous voulez, parce que vous n'avez qu'à prendre le curé d'Ars, qui était en proie aussi à des manifestations qu'il appelait diaboliques.
Mm-hmm.
Mais toutes les personnes qui ont une vie spirituelle intense, qui vivent dans les privations, la macération, la flagellation, etc., etc., la mortification en général, sont dans un état physique et psychique tel qu'ils sont, je dirais presque, normalement en proie à des phénomènes semblables.
Oui.
Et alors, bon, pour le Moyen-Âge, nous avons énormément d'ermites, par exemple, qui vont s'installer dans les solitudes, et qui, tous les jours, voient leur ermitage, ou toutes les nuits, voient leur ermitage attaqué par le diable, entre guillemets, qui lance des pierres, qui cherche à détruire leur maisonnette, etc.
Mm-hmm.
Mais bon, là, ça se passe dans leur tête, disons.
Oui, oui, oui. Et vous relatez, alors j'espère que vous allez vous en souvenir, l'histoire qu'a vécu Saint-Germain avec ses compagnons,
ah oui.
Qui est arrivé, qui cherchait le gîte,
oui.
Un toit, et en l'occurrence, on lui désigne une maison complètement effondrée, ah oui. Quasi en ruine, et surtout hantée.
Oui, ça c'est vraiment une très très belle histoire et vraiment ancienne, puisqu'elle doit être du 6e siècle, si je me souviens bien.
Oui, oui, oui.
Bon, donc, on leur désigne cette maison en ruine, Saint-Germain et ses compagnons s'y installent, et au début de la nuit, ils reçoivent une pluie de... Enfin, des pierres s'abattent sur les murs de la maison.
Mm.
Bon, alors qu'est-ce qui se passe? On cherche, on trouve rien. Et puis ensuite, tout le monde s'endort, sauf Saint-Germain, qui veille. Et là, il y a un fantôme qui lui apparaît. Enfin, un fantôme, on ne sait pas s'il est matériel ou immatériel, et qui lui fait signe finalement de le suivre. Et il apparaît en même temps que une nouvelle pluie de pierres se fait sentir. Alors Saint-Germain le suit, et l'autre va jusqu'à un endroit où il s'arrête et il montre le sol, grosso modo. Bon, Saint-Germain, qui est intelligent, comprend tout de suite que celui qui s'est manifesté veut quelque chose. Donc le lendemain, avec des villageois, il fait creuser à cet endroit-là et il trouve des squelettes enchaînés. On leur donne une sépulture chrétienne, fin des manifestations. Hein, tout est bien, qui finit bien.
Mmh. Mais alors là, selon vous, où s'arrête la partie reportage, entre guillemets, et où commence la partie récupération pour aller dans un sens précis. On l'a bien compris là, dans le sens de Saint-Germain et de la force de la foi catholique.
Bon, alors, si on retire la partie, disons, chrétienne du récit,
oui.
On a simplement la manifestation d'un mort sans sépulture, mm-hmm. qui réclame une sépulture.
Ouais.
Parce que dans les mentalités anciennes, et c'est la même chose notamment dans l'Antiquité classique, si vous n'avez pas reçu de sépulture rituelle, et ça c'est fondamental, vous errez entre l'ici-bas et l'au-delà. Vous ne pouvez jamais passer dans l'au-delà.
Ouais.
Et c'est là l'origine, par exemple, si vous voulez, des tombes fictives, où on déposait un objet dans la tombe qui était censé figurer le corps.
Oui.
Comme ça, on pouvait faire passer le mort dans l'au-delà. Mmh. Donc, s'il est bloqué entre les deux mondes, eh ben, il est normal qu'il demande de l'aide pour passer définitivement de l'autre côté.
Oui.
Donc ça, c'est la mentalité sous-jacente. Et cette mentalité est confirmée par les restes qu'on va trouver et par la fin des phénomènes dès qu'ils sont enterrés correctement.
Mmh. D'accord. Mais le problème, c'est que pour que l'on soit dans un cas de poltergeist,
oui,
il faut, comme on l'a dit, que ce soit provoqué par un
vivant. Ben oui.
Un être vivant.
Ben oui.
Donc là, vous le tournez comment pour pouvoir essayer de le mettre dans la case poltergeist, ce qu'a vécu Saint-Germain?
Eh bien, c'est simplement, une question d'interprétation. C'est-à-dire que on a, dans ce récit, manifestement, la collision de deux récits différents.
Mmh.
C'est-à-dire le mort sans sépulture qui se manifeste, mmh, et là, toute une partie du récit rappelle très très fortement l'histoire de la maison hantée d'Athénodore.
Oui.
De très très près. Hein.
On va y revenir, bah oui,
voilà.
C'est quasiment
mais
la même. Oui.
Mmh. On a les jets de pierre en plus.
Oui.
Et les jets de pierre, bon, bah, ils ont été pris, à mon avis, hein, bien mmh sûr, mmh, à mon avis, ils proviennent d'un autre récit. Mais comme on prêtait aux morts la capacité de lancer des pierres,
oui,
eh bien, on les a mis là. Et puis, ça rehausse tout de même le fantastique. Imaginez, la nuit, la maison en ruine, le groupe de voyageurs fatigués, et tout ça, et d'un seul coup, le fracas.
Oui.
On a encore, il y a de quoi faire.
Ah oui, 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 tout à fait. Et puis, on s'en apercevra au fur et à mesure de l'avancée de cette émission. Et puis, les lecteurs, les futurs lecteurs, que j'espère nombreux de votre livre, vont s'en rendre compte. Le jet de pierre, c'est vraiment, comme on dit en économie, une tendance lourde du marché. Hein,
c'est... Ah oui, 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 oui. Disons que c'est la manifestation qui attire l'attention. Hein. C'est une des toutes premières. Et puis ensuite, vous avez d'autres tendances qui sont assez lourdes. Hein. Parce que quand vous avez des buffets qui circulent dans la pièce ou des armoires normandes qui déambulent, il y a même des détails qui sont absolument succulents. Et là, on se demande dans quelle mesure ils n'ont pas été inventés. Parce que moi, je me souviens d'un récit que j'ai lu où on voit les pantoufles qui monte l'escalier toute seule. Ah non, mais c'est je vous dis, parfois, mais vous éclatez de rire en disant, mais quelle naïveté pour oser reproduire des choses semblables. Ah non, mais le coup des chaussons, ça, j'avoue que j'ai adoré.
Ah oui, oui, c'est pas mal.
Ouais.
Alors, racontez-nous, parce qu'on a tourné autour du pot pendant quand même pas mal de temps, cette histoire qui a été relatée par Pline le Jeune.
Oui, ben il y avait simplement à Athènes une maison hantée, et comme elle était hantée, eh bien on n'arrivait pas à la louer. Alors le philosophe Athénodore est arrivé, bon, il cherchait à se loger, il a entendu parler de cette maison, vous savez, un philosophe grec de ce temps-là, c'est tout de même un esprit solide,
oui,
oui, il a été s'installer dans la maison, et le soir, alors qu'il travaillait, il entend un bruit de chaîne. Bon, il continue à travailler, là, éclairé par sa lampe à huile. Et puis, les chaînes, le bruit se rapproche, et à un moment, le bruit est dans la pièce. Alors, il se retourne, et qu'est-ce qu'il voit? Un spectre, avec des chaînes. Bon, ben, ça le trouble pas, c'est ça qui est extraordinaire. Hein.
Oui,
bon,
il lui fait même signe, je bosse, et puis je
voilà, exactement. Il lui dit, attends une seconde, j'ai pas fini ma phrase, quoi. Grosso modo, c'est ça son attitude. Bon, et puis l'autre fait teinter ses chaînes, et Athénodore le suit. L'autre l'emmène dans la cour, jusqu'à un endroit qu'il désigne, et il disparaît. Et alors là, comme dans l'histoire de Saint-Germain, Athénodore fait creuser, et on trouve les restes d'un condamné, puisqu'il avait des chaînes aux pieds et aux mains, on lui donne une sépulture rituelle, et la hantise prend fin.
Mmh.
Mais l'attitude du philosophe, c'est aussi sympathique.
Ah oui, oui, oui. Mais alors, là, dans ce cas précis, comme dans celui du cas de Saint-Germain d'ailleurs,
oui,
est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse suivante, à savoir que l'un comme l'autre, le philosophe comme le saint, sont dotés d'une capacité, d'une sensibilité supérieure à la normale, on va dire, et que ce soit eux, leur inconscient a attrapé d'une manière ou d'une autre l'information selon laquelle il y avait un cadavre qui était en train de pourrir dans le sol là, et que selon leur religion, leur culture, c'était mal, je résume, leur inconscient provoque ce genre de phénomène.
Alors là, à mon avis, c'est impossible à dire.
Oui.
Parce que les récits sont très courts et qu'on n'a pas de détails.
Mmh.
Et là, bon, il faudrait être... Bon, on peut les mettre sous une forme, sous la forme d'hypothèse, si vous voulez.
Oui, oui.
Mais
oui.
Je ne pense pas que ça ait été perçu comme cela à l'époque où les textes ont été écrits.
Ah non, ça certes non. Là, pour eux, c'était clair que c'est le mort lui-même qui revenait.
C'est ça.
Ça n'a rien à voir avec les vivants.
C'est pas une projection du vivant qui est dans la maison.
Hein. Mmh. Oui, oui. Non. Bon. Les poltergeists, dites-vous un petit peu plus loin dans votre livre pour avancer, il y a pas mal de poltergeists qui ont été analysés comme étant annonceurs de présages.
Oui.
Ou annonceurs de nouvelles, en tout cas, de changements de situation.
Oui. Alors ça, c'est aussi une mentalité très ancienne, si vous voulez, et ça fait partie de ce que l'on appelait à Rome les portenta, c'est-à-dire les signes annonciateurs de quelque chose. Alors, en général, au même titre, si vous voulez, qu'une comète, qu'une éclipse, que je sais pas moi, une poule qui chante comme un coq.
Oui.
Les faits sont extrêmement nombreux dans les mentalités anciennes. Donc, tout phénomène anormal est un phénomène qui doit attirer l'attention des vivants parce qu'il a une signification. Cette signification est cachée les trois quarts du temps et le travail de l'homme consiste à trouver la signification profonde de l'événement.
Mmh.
Voilà. Donc, vous avez des jets de pierre. La question numéro un, c'est pourquoi? Et alors, vous avez un très très bon exemple de ça dans l'histoire du chalet hanté d'Issime, au début du XXe siècle.
Oui. Mmh.
Puisque un des participants émet l'hypothèse qu'il doit y avoir un mort qui n'est pas content pour une question d'héritage en souffrance ou quelque chose de semblable.
Mmh.
Donc, vous voyez, on interprète donc le signe, parce que c'est vraiment un signe hein, au sens que lui donne saint Augustin, c'est un signe qui est l'annonce de quelque chose, et l'annonce c'est au sens large, ça peut être une demande ou ça peut être le présage.
Mmh. Et présage, changement de situation, de pauvre
oui.
on va devenir riche, de riche on va devenir très pauvre, ou apprendre un décès, enfin je veux dire ça n'est pas la petite nouvelle anodine.
Non, non, en général, c'est quelque chose qui marque la vie. Mais les annonces les plus fréquentes sont celles de décès.
Oui. Vous en avez trouvé beaucoup qui allaient dans ce sens?
Ben écoutez, c'est pas moi qui ai fait l'enquête, mais c'est le philosophe Carl Gustav Jung avait fait l'enquête il y a déjà longtemps.
Mmh.
Et il a eu des milliers de témoignages. Et sa secrétaire, Anélia Yaffé, en a publié un livre. Une partie des témoignages et son analyse.
Mmh.
Donc c'est quelque chose, mais alors, là encore, non seulement courant, mais quasiment banal. C'est étonnant, hein?
Ah, tout à fait.
Là, vous allez rester quoi si ça continue?
Non, mais c'est, il faut dire que il y a des récits que vous rapportez dans votre livre qui sont absolument confondants, inédits d'ailleurs dans cette mise en lumière les trois quarts du temps.
Bah oui, il fallait bien que j'apporte quelque chose de neuf.
Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup, de par votre connaissance, votre savoir, votre connaissance du Moyen-Âge et de la littérature du Moyen-Âge, ça vous a permis d'aller dans des lieux, dans des pans de littérature que certains spécialistes dans d'autres domaines ne connaissaient pas, évidemment.
Oui, mais vous savez, en général, les textes auxquels je m'intéresse ne sont pas considérés comme de la littérature.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, par littérature, on entend l'épopée, le roman, je ne sais pas moi, le fabliau, etc.
Mm-hmm.
Mais moi, c'est en marge de la littérature, parce que c'est là où on trouve les meilleurs témoignages, si vous voulez. La littérature en tant que telle ne m'intéresse guère, parce qu'on n'y trouve que des échos des croyances. Maintenant, quand vous plongez dans les chroniques, ou dans, je sais pas moi, des recueils d'exemplaires, hein, ou de légendes, de choses comme ça, là, vous trouvez votre bonheur.
Mm.
Tandis que, bon, dans la littérature,
il
n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'éléments. Tout est transformé, si vous voulez, pour les besoins du récit.
Mmh. Claude Lecouteux, on va s'accorder une pause. Je vous donne rapidement les deux ou trois histoires que j'aimerais que vous nous racontiez pour que vous puissiez les retrouver rapidement pendant la pause. Il s'agit trois choses. D'abord, j'aimerais que vous nous rapportiez l'histoire concernant l'imprimerie du sieur Lahar. Alors ça, j'ai trouvé ça, cette histoire d'imprimerie extraordinaire. Page 76.
Mais ça c'est une bonne idée. Hein,
je l'ai noté. Et puis le récit que rapporte. Alors je m'attendais à des récits venant de tous horizons, mais de lui peut-être pas. Antoine de Torquemada.
Ah oui, avec le Trasgo.
Oui, on s'entendait pas à ce qu'Antoine de Torquemada donne dans ce genre de récit.
Oui.
Et puis.
Mais alors
surtout...
là, c'est quelle page ?
Ah oui, 124, pardon.
Non mais c'est magnifique. Hein.
Et enfin, une histoire extraordinaire. Je trouve que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Oui. C'est vraiment le chalet des esprits.
Ah ça. Ouais, mais elle est longue celle-là.
Dans le chapitre que vous avez intitulé « Une des deux histoires frappantes », page 153, qui s'est déroulée en plus à l'époque contemporaine, début 20e siècle, et qui est absolument confondante. Je veux dire, si on avait un cas comme ça de nos jours que l'on puisse étudier avec ce que l'on sait du phénomène de poltergeist, ce serait du pain béni, si je puis me permettre ce rapprochement.
Ah, ça, oui.
Mais oui. Claude Lecouteux, une pause, et on se retrouve dans quelques instants avec cette fameuse histoire de l'imprimerie du sieur Lahar. Page 76, à tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit, sur Sud Radio.
Retour aux aventuriers de l'étrange sur Sud Radio avec mon invité Claude Lecouteux, auteur d'un livre très très intéressant, vraiment avec des récits passionnants et semble-t-il vrai, enfin du moins digne de foi, concernant les maisons hantées. Donc le titre du livre « La maison hantée » avec comme sous-titre « Histoire de poltergeist », c'est paru aux éditions Imago. Claude Lecouteux, je rappelle quand même que vous êtes professeur de littérature et de civilisation du Moyen-Âge à la Sorbonne, à l'université Paris 4. Tout ça pour faire comprendre à ceux et celles qui viendraient juste de nous rejoindre qu'on ne discute pas avec le premier venu qui a ramassé quelques textes ici ou là. On parle d'histoires absolument fascinantes et j'avoue que celle concernant l'imprimerie du sieur Lahar m'a un peu laissé pantois, ou quoi, comme vous disiez tout à l'heure. Vous aussi, d'ailleurs, ça a dû vous surprendre quand même, quand vous l'avez découverte.
Oui et non.
Non,
oui
sans
non,
plus, monsieur.
C'est un espèce de compendium assez extraordinaire d'éléments différents. On a l'impression d'avoir une synthèse.
Oui.
Une synthèse totale de tout ce qu'on peut rencontrer éparpillé dans d'autres récits.
Mmh. Ah, c'est un concentré, ça je vous l'accorde.
Ah oui, ça, vraiment.
Oui, mais pour en revenir à la fiabilité de ce récit, on peut le considérer comme fiable.
Bah, c'est tout de même un religieux qui l'a écrit. Hein.
Oui, mais vous savez, les religieux...
Ah oui, non, mais bon, je veux bien. Et ensuite, ça a été reproduit par un autre, par un bénédictin.
Mmh. Ouais.
Bon, enfin, bon.
Alors,
que chacun se fasse son idée.
Racontez-nous.
Eh bien, le 8 août 1748, dans une imprimerie de Constance, hein, sur les bords du lac du même nom, ouais, on a entendu des soupirs qui partaient d'un coin de l'imprimerie. Bon, les gens qui étaient là ont bien ri, mais ça a continué. Et ensuite, on a entendu des coups dans la muraille, là où on avait entendu des soupirs.
Mmh.
Et puis, ensuite, les imprimeurs ont reçu des gifles. On a jeté leur chapeau par terre. Bon, donc, eux, déduction normale, il y a un diable ou un diablotin. Ils ont été chercher des capucins qui sont venus pour pratiquer des exorcismes.
Bien sûr.
Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. En fait, on a eu une pause de 3 jours. 3 jours plus tard, le bruit recommence. L'esprit jette des caractères contre les fenêtres. Deuxième exorciste et rebelote, en quelque sorte. Rien ne s'arrête. Et l'esprit continue son manège. Il gifle les uns, il jette des pierres aux autres et tous les objets qu'il y a dans l'imprimerie. Et les imprimeurs se regroupent au milieu de la pièce, en se disant, bon, ben là, on va être tranquille. Pas du tout. Alors, on continue, et si vous voulez, tout le récit est scandé par l'arrivée d'exorcistes qui pratiquent les exorcismes.
Ouais.
Les exorcismes ne donnent rien, et même, de temps en temps, l'esprit, hein, à chaque fois c'est comme ça qu'il est nommé, ridiculise les exorcistes. Et même les frappe. Bon, alors, on cherche dans tous les coins. Il y a une chose qui est étonnante, c'est qu'on ne voit les objets qui volent que lorsqu'ils sont en l'air. C'est-à-dire, on ne les voit pas quitter leur emplacement.
On ne voit pas le point d'origine.
On ne voit jamais le point d'origine.
Et ça, c'est courant également dans tous les phénomènes de jet, hein, de jet de pierre ou de quoi que ce soit d'autre.
Exactement. Alors, on a différents éléments. On va brûler certains objets un peu parce qu'on se dit, bah, là, il y a un maléfice, donc il faut le faire disparaître. Mais le plus étonnant, c'est qu'en permanence, les gens qui sont dans l'imprimerie sont molestés.
Oui.
Et même le maître Lahare, hein, l'imprimeur, est blessé à la tête. Ils sont piqués, ils sont renversés, ils sont frappés, ils sont attaqués à coups de pierre, ils sont jetés au bas d'une échelle, etc. Alors, comme les religieux, ça ne donne rien, on va chercher un bourreau. Parce que vous le savez sans doute, mais le bourreau, c'est toujours un peu un sorcier.
Je l'ignorais jusque-là.
Non, ben voilà. Donc, c'est tout de même un peu un sorcier, vous savez. Ça fait partie de tous les gens qu'on considère comme des marginaux.
Ouais.
Et donc, à qui on prête certains pouvoirs.
Bien sûr, comme le forgeron qui habite en dehors du village.
Voilà, le forgeron, l'écarisseur, le berger. Il y en a toute une liste, hein, finalement.
C'est vrai.
Alors, le bourreau essaye de remettre de l'ordre dans la maison, mais ça ne donne rien du tout. Donc, bon, on peut continuer comme ça. La veuve du bourreau vient ensuite.
Oui, c'est
elle
vrai.
Elle fait des fumigations dans tout le logis pour en chasser les mauvais esprits.
Bon, et elle ne finit même pas son travail, elle demande même pas son salaire et part en courant d'ailleurs.
Ben oui, parce que le texte nous dit, elle se sauva dans sa maison sans demander son salaire.
Oui. Oui,
ça c'est assez. Alors ensuite, on appelle un curé, habile exorciste. Bon, ça ne marche pas, aucun succès, etc. Un prêtre est frappé d'un couteau, puis d'une fourchette, mais il n'est pas blessé. Le fils de Lahare reçoit un coup de cierge pascal sur la mâchoire, etc., etc. Alors, si vous voulez, parfois, c'est même assez amusant lorsqu'on prend ça, parce qu'on a la mise en déroute, finalement, de tous les corps constitués et ayant réputation de pouvoir sur les esprits. Ce qui prouve, enfin pour moi qui analyse le texte, ce qui prouve bien que l'on n'a pas de manifestation surnaturelle. Et que le moteur de l'ensemble se trouve bien dans l'imprimerie. Et que ça c'est un cas de poltergeist qui correspond exactement à ce qu'on a au XXe siècle.
Oui. Un cas très classique finalement.
Oui, mais vraiment, vraiment très très classique.
Mm-hmm.
Très très classique. Il y a plusieurs jeunes tout de même, des apprentis dans l'imprimerie, etc.
Oui.
Ça, c'est assez... Mais bon, c'est un beau texte. Mais à mon avis, aussi avec pas mal d'enjolivures.
Pas mal.
Ah oui.
Oui. Mais il n'en reste pas moins que la solution a été trouvée ou pas, finalement, alors ? Est-ce que les phénomènes ont cessé ?
Ben, les phénomènes, c'est comme d'habitude, ils ont fini par cesser. Mais si vous regardez l'explication qui en est donnée... Moi, je dirais quasiment, elle est canonique. Elle est canonique. Hein. Les manifestations cessèrent le 8e jour de février.
Mm-hmm.
Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on attribue les phénomènes à un mort qui n'a pas trouvé le repos parce qu'il était fâché. Pour une question d'héritage, apparemment.
Oui. Évidemment, à l'heure actuelle, on chercherait parmi les personnes présentes, celles qui présenteraient des troubles psychologiques ou un mal-être certain pour en déterminer la cause, la cause.
Bien sûr. Et si vous voulez, moi, mon étude, c'est simplement montrer l'évolution des mentalités au niveau des interprétations et comment, petit à petit, on est arrivé à la conception moderne.
Mmh. Ces écrits sont pardon, finalement assez proches du reportage, si on fait abstraction de la solution, de l'interprétation qui est trouvée.
Ah oui, mais il y a beaucoup de ces récits, finalement, je dirais quasiment, c'est presque du direct, hein. Et c'est du fait divers, bon, à l'ancienne, mais au lieu d'être perdu dans des livres, ça aurait mérité d'être imprimé sur des feuilles volantes, hein, et il n'est pas dit que certains ne l'aient pas été.
Oui, et qu'ils aient disparu.
Oui, mais vous aviez, il y a une chose aussi, bon, ça j'en ai pas parlé, mais je peux vous le dire là, ça sera un scoop. Vous avez eu, dans le temps, des crieurs de nouvelles, un peu partout en Europe.
Quand vous dites dans le temps, c'est-à-dire à quelle période?
Oh, ben, je dirais aller jusqu'au 19e siècle, hein.
Ouais.
Parce que jusque-là, je connais à peu près. À peu près, après, je ne sais plus.
Ouais.
Bon, donc, les jours de marché, ils montaient sur une estrade, et, moyennant finance, ils criaient les nouvelles et ils racontaient des histoires. Donc, quand vous avez une histoire semblable à celle de l'imprimerie, ben, imaginez le... Je sais pas, moi, comment on dirait en français, je sais plus. Non pas le succès, mais le bruit que ça aura fait.
Oui.
Bon, eh bien, aussitôt, ça se répand comme un feu de poudre. Et comme un feu de prairie, pardon.
Mm-hmm.
Et donc, eh ben, on va aller la raconter. On va la raconter à l'auberge, on va la raconter au marché, à la foire, etc.
En l'enjolivant et en la transformant en chaque fois.
Et voilà, en chaque fois. Et après, les éléments vont se dissocier pour aller meubler d'autres récits semblables.
Mmh. Oui, oui.
Hein, le bouche à oreille, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Oui. Et d'ailleurs, il y a une personne que vous citez dans votre livre qui a fait, semble-t-il, un travail très, très, très intéressant. Là, on va passer à la période des lutins. Une thèse que vous citez d'Erika Lindig, c'est
oui,
ça
oui, oui.
Qui a dressé la liste de toutes les actions des lutins.
Oui.
Et c'est confondant, on croirait, la liste de tous les phénomènes que produit un poltergeist, finalement.
Oui, oui. Et si vous voulez, l'intéressant dans l'enquête d'Erika Lindig, c'est justement que, sans le savoir, elle me fournissait tous les éléments en rapport direct avec mes esprits frappeurs.
Oui.
Et donc c'est un chercheur de l'université de Fribourg en Brisgau, hein, qui m'avait envoyé ce livre parce qu'elle savait que je travaillais sur des sujets semblables. Mais nos recherches ont toujours été menées indépendamment les unes des autres.
Mm-hmm.
Et nous arrivons au même résultat.
Oui, c'est ça qui est étonnant.
Non, je dirais pas que c'est étonnant, mais lorsque ça se passe ainsi, cela signifie que nos analyses devraient a priori être pertinentes.
Mmh.
A priori.
Oui. Et à la lumière de votre livre, du coup, on regarde différemment, suivant la culture dans laquelle on vit, à la lumière de ça, on retrouve des poltergeists à travers tout ce qu'on appelle esprit frappeur, alors que ce soit chez les Bretons, que ce soit dans toutes les civilisations, finalement.
Oui, ben vous savez, si mon livre réussit à ouvrir les yeux et à provoquer une lecture différente de ces récits sur lesquels on croyait tout savoir, alors là, j'aurais atteint mon but.
Oui.
Parce que tous ces récits ont toujours été lus d'une seule et unique façon. Mais tout simplement parce qu'on ne possédait pas les moyens de les décrypter.
Mmh.
Et alors là, je donne un petit moyen qui permet d'avoir un autre angle.
Parce que les lutins, les farfadets, les esprits farceurs, nous les retrouvons dans quasiment toutes les civilisations sous d'autres noms, évidemment.
Ah, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est étonnant, là, je ne sais plus si j'ai cité ce texte, mais vous avez un beau texte du 13e qui s'appelle Le petit crieur et l'ours polaire. Ben, c'est une histoire d'esprit frappeur. Et pourtant, il est présenté comme un lutin avec une barbe, un bonnet rouge, et oui, il se tient au coin de la cheminée. Hein.
Oui. En résumé, elle dit quoi, cette histoire?
Ah ben, c'est un Norvégien accompagné d'un ours polaire qui passe la nuit chez un paysan.
Mm-hmm.
Et le soir, l'ours dort au coin du feu, quand le lutin, le crieur, là, sort Il voit l'ours, et il dit ça va pas ça. Il a pris ma place et il lui donne une tape sur le museau. L'ours, furieux, ne bouge pas. Donc, vous avez une bagarre épouvantable entre l'ours et le lutin.
Ouais.
Et tout est mis en dessus-dessous dans la maison. Et le lendemain matin, donc une fois que le Norvégien est parti avec son ours, le lutin vient trouver le fermier et lui dit je peux pas rester ici à cause de ton gros chat. Et il s'en va. Seulement, ce qui a été dit plus avant dans le récit, c'est que dans cette ferme, un lutin semait le désordre, déplaçait les meubles, etc., etc.
Mm-hmm.
Donc, ce lutin, c'est pas un lutin.
Oui. Et ce qui fait donc, ce qui met en lumière la présence du phénomène de poltergeist depuis la nuit des temps et dans toutes les civilisations.
Exactement, exactement. Alors, évidemment, je pense aussi que on a attribué ça, et c'est pour ça que c'est difficile à retrouver, on l'a attribué à la magie aussi, à la sorcellerie, ou que sais-je encore, mais il faudrait aller gratter derrière ces récits pour voir si derrière telle transe, on n'a pas un phénomène de poltergeist, par exemple.
Mmh. Passons maintenant à un autre récit que l'on doit, alors cette fois-ci, je m'attendais pas à trouver ce nom dans votre livre, Antoine de Torquemada,
oui.
Personnage ô combien illustre. Rappelez-nous d'abord, en deux, trois mots, qui était Antoine de Torquemada?
Oh, c'est un grand érudit qui... Oh là là. Là, vous m'en donnez beaucoup, vous me demandez beaucoup de choses, hein. Là, vous faites trop travailler ma mémoire. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a laissé son nom dans l'histoire, justement parce qu'il s'est essentiellement occupé de surnaturel.
Mm-hmm.
Surnaturel positif, négatif, diabolisme, sorcellerie, etc., etc.
Ouais, mais ouais.
Voilà.
Et donc vous rapportez un récit qu'on lui doit, lui-même l'a recueilli lorsqu'il était, il faisait ses études à l'université de Salamanque.
Oui.
Et c'est ce qu'a vécu une veuve. Alors là, le récit est très bien documenté, très précis, et les phénomènes sont assez extraordinaires également.
Ah oui, oui, oui. Ben, à Salamanque, il y avait une femme, une veuve, âgée, qui avait chez elle 4 ou 5 servantes. Le détail est important.
Oui, jeunes.
Dont 2 jeunes.
Mm, mm, mm.
Et le bruit se répandit qu'il y avait un lutin dans la maison, qui faisait toutes sortes de tours. Il jetait des pierres du haut du toit, et ces pierres, en touchant les personnes, ne leur faisaient aucun mal. Enfin bref, ça a fait tellement de bruit à Salamanque que le corrégidor en eut connaissance et vint enquêter. Avec 20 hommes ou plus, il perquisitionna, en quelque sorte, la maison de la veuve, et non, ils ne trouvèrent absolument rien. Et le texte dit, il ne manquait plus que de lever les parquets, car du reste, il n'y avait pas un coin où ils n'eussent fouillé.
Mm.
Et au moment où le corrégidor et ses hommes vont partir, après avoir accusé la veuve, finalement, que c'était une erreur, que c'était les servantes qui avaient des amants, etc., etc., au moment où le corrégidor s'en va, grand bruit, et une pierre, et non, pas une pierre, mais un certain nombre de pierres, viennent rouler au pied des alguazils et du corrégidor.
Oui.
Mais elles ne font de mal à personne. Alors aussitôt, le corrégidor furieux relance la perquisition. On ne trouve rien et les pierres continuent à pleuvoir. Bref, les gens qui sont là n'ont pas d'explication. Le corrégidor ramasse une pierre et la jette par-dessus le toit en disant que ce soit le diable ou un lutin qu'il me renvoie cette pierre. Et au même instant, vous avez la pierre qui revient et qui frappe son bonnet au-dessus des yeux.
Mmh.
Ensuite, bon, alors là, on a un ecclésiastique qui est appelé en renfort, qui prononce quelques exorcismes et qui met fin au phénomène. Et alors, c'est cet ecclésiastique qui appartient à un ordre que je n'ai pas pu identifier, même avec l'aide de mes collègues, pour moi, est un gros point d'interrogation.
Pourquoi ?
Ben, est-ce que c'est vraiment un ecclésiastique ? Parce que je ne connais pas et mes collègues ne connaissaient pas non plus, mes collègues médiévistes ne connaissaient pas d'ordre qui s'appelle Petite Tour, hein, Torres Menudas.
Oui.
Mais là, peut-être que parmi vos auditeurs, vous aurez quelqu'un qui va pouvoir nous dire « Oui, mais moi, je sais
». Mais écoutez, si quelqu'un ou quelqu'une a la réponse à cette question, vous nous appelez au 0826-300-300, 0826-300-300, et vous me laissez un message dans la boîte vocale des aventuriers de l'étrange, et je me ferai un plaisir de vous transmettre l'information, Claude Lecouteux.
Ça, ah, mais ça, avec plaisir, parce que souvent, j'ai des renseignements comme ça qui arrivent, ou des éclaircissements qui arrivent de côté absolument imprévisible. Hein. Mm-hmm. Mais vous avez énormément d'érudits en France. Hein. Faut pas l'oublier.
Oui, tout à fait. Oui, oui. De passionnés, des amateurs.
Voilà, exactement.
Oui, oui, vraiment.
Et qui dit amateur ou dit passionné, dit qu'il est souvent en connaissance remarquable.
Mm-hmm, tout à fait. Claude Lecouteux, à la suite de la publication de ce livre, avant de parler tout à l'heure, pour conclure, de cette grande histoire qui s'est déroulée au Val d'Aoste, au début du XXe siècle, le chalet des esprits, est-ce que vous avez reçu ou vous pensez recevoir des témoignages de personnes qui vivent ce genre de phénomène ou qui ont vécu ce genre de phénomène ?
Honnêtement, je ne crois pas. Parce que mon angle d'exposition n'incite pas à confier des témoignages comme ça. Parce que je reste tout de même un peu sceptique, si vous voulez, ou en tout cas critique.
Oui.
On se tournera plutôt vers un psychologue ou un psychiatre.
Hein. Oui.
Et puis de toute façon, qu'est-ce que voulez-vous que je fasse ? Moi, si j'ai un témoignage, il faut que je puisse le vérifier.
Bien sûr.
Donc, il suffit pas, hein, parce qu'à ce moment-là, moi je vous dirais, vous faites un petit sondage sur Internet, hein, vous rentrez poltergeist, vous allez avoir je sais pas combien de milliers de témoignages en
ouais.
direct.
Mmh.
Oui, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que le témoignage a une valeur ? J'en discutais un jour avec mes étudiants, et je leur ai dit, oui, mais moi, je peux vous lancer, là, sur le net, une foule de témoignages qui vous feront dresser des cheveux sur la tête et qui auront un succès fou, hein, mais qui seront bidons.
Mm-hmm. Oui,
ça fera une imposture.
Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous dites, je suis sceptique, c'est-à-dire... On ne parle pas du verbe croire, hein,
non.
Qui appartient du domaine de la foi, de la croyance, qui n'a rien à voir avec
Tout
le côté
fait.
Scientifique qui nous occupe ce soir.
Tout à fait.
Mais lorsque vous recueillez un texte, en l'occurrence là, par exemple celui rapporté par Torquemada,
oui.
Vous lui accordez du crédit tout de même.
Un crédit documentaire.
Et quelle est la nuance avec le crédit tout court ?
Si vous voulez, bon, ce qu'écrit Torquemada, c'est tout de même seconde moitié du XVIe siècle.
Oui.
Bon, c'est invérifiable.
D'accord.
Alors, à ce moment-là, je suis obligé de croire en sa bonne foi.
Mm-hmm.
Alors que pour des, disons, pour le contemporain, la bonne foi peut être mise en doute. Parce que vous avez énormément de personnes qui, pour faire parler d'elles, vont inventer ce type de phénomène.
Bien sûr.
Donc, et c'est là où ça me met très mal à l'aise.
Mmh. En revanche, en tant que scientifique, puisque vous l'êtes, vous accordez du crédit à l'existence du phénomène de poltergeist.
Tout à fait. D'autant que on sait scientifiquement à quoi il correspond.
Mmh.
Et qu'il y a des bonnes études là-dessus. Hein.
Voilà, voilà. C'était la précision que je voulais établir avec vous.
Oui.
Claude Lecouteux, pour conclure cette conversation, on va terminer en beauté avec le feu d'artifice final, si j'ose dire, page 153. Comme ça, au moins, les auditeurs pourront aller piocher directement quand ils auront votre livre les
oui.
récits aux pages indiquées. Alors, il y a un chapitre que vous intitulez, avant la conclusion, « Deux histoires frappantes », frappantes au sens propre et figuré d'ailleurs.
Oui. Alors, attendez, parce que je voudrais rendre tout de même à César ce qui appartient à César.
Rendons.
C'était pas le titre que j'avais donné au chapitre.
Ah pardon, excusez-moi.
C'est le titre de Thierry qu'a trouvé Thierry Ozas après lecture du 10 chapitres.
Ah très bien.
Voilà.
Bon, parfait. Voilà. Au départ, vous aviez donné quoi comme titre si, non, c'est pour l'anecdote.
Je me souviens pas parce que c'est quelque part dans l'ordinateur.
Bon, très bien. Alors Claude Lecouteux, donc le chapitre qui a pour titre deux histoires frappantes rapporte la première histoire. Est passionnante. J'ai choisi la seconde parce que elle est contemporaine ou quasi.
Oui.
1920, oui. Vallée d'Aoste, oui. Italie.
C'est ça.
Donc là, on peut se dire témoignage plus solide. Le compte rendu est paraffé par plusieurs personnes.
Ah oui, et pas des moindres. Hein.
Oui.
Puisque on a tout de même le curé, un assesseur, le brigadier des carabiniers, deux autres carabiniers. C'est pas mal, hein.
Oui. Donc là, on peut considérer comme le récit étant digne de foi, quand même.
Ah oui, je crois.
Et puis, énormément de témoins, au plus fort de la crise, presque une trentaine, je crois, dans la même pièce, ou une vingtaine de personnes, dans la même pièce, où il pleuvait des cailloux comme à Gravelotte, alors qu'ils étaient à l'intérieur.
Oui.
Racontez-nous donc cette histoire telle que vous l'avez découverte. D'abord, vous l'avez trouvée où, cette histoire?
Ah ben, c'est pas moi qui l'ai trouvée, hein, c'est... Ouais. C'est une de mes collègues qui l'a publié dans Le Monde Alpin et Rodanien.
Oui.
Donc, à partir du document manuscrit, hein, du curé Gradvezan, là.
Oui.
Et puis, ensuite, j'ai reçu une copie de l'article du frère de ce curé, qui s'appelait lui Romain Vezan, et qui est intitulé Les Diables dans la Valaise.
Oui.
Donc, une copie que m'a envoyée Alice Joasten, du musée dauphinois.
Oui. Donc, c'est quasiment un témoignage presque de première main.
Ah oui. Oui, tout à fait, puisqu'on a les deux frères qui nous donnent deux témoignages du même fait, mais bon, il y a quelques légères différences, mais minimes.
Ouais.
Alors, ça se passe dans le vallon de Torizon et dans deux chalets qui appartenaient à Stévenin Édouard Dugaby. Et ça, c'est en 1909.
Mmh.
Alors, on a des choses absolument étonnantes. Comme le récit est très long, je vais simplement donner un tout petit aperçu. Un jour, on trouve deux vaches attachées à la même chaîne, on trouve des chèvres drôlement revêtues avec des habillements de personnes, des pierres roulent dans la maison en faisant des zigzags impressionnants et frappent les personnes, des pierres déchirent la toile des parapluies sous lesquels dorment les enfants, et ça continue comme ça. Les pierres pleuvent sans arrêt, parce que le phénomène va durer tout de même assez longtemps. Hein, pleuvent à l'intérieur de la maison, certaines pierres sont même chaudes au toucher. Lorsqu'un esprit fort met en doute la réalité de tout ça et parle de supercherie, eh bien, il reçoit une gifle. Donc c'est assez amusant. On voit arriver les pierres à la distance d'environ 1 mètre au maximum, mais on ne sait pas d'où elles sortent.
Voilà, c'est ça, on ne voit pas l'origine.
Ah non, jamais.
Du jet de la pierre, on l'aperçoit quand on va la recevoir quasiment sur soi, quoi.
Eh oui.
Ouais. Et là, à contrario, par rapport, par exemple, au récit rapporté par Torquemada, où les pierres évitaient soigneusement de faire mal aux gens, là, les pierres frappent, vraiment.
Oui, mais de façon inégale.
Oui.
Disons que plus vous êtes sceptique... Plus ça vous fait mal.
Oui, c'est ça.
C'est la punition du scepticisme.
Oui,
c'est des récits, je veux dire. Il faut les lire parce que c'est extraordinaire.
Mm-hmm. Hein.
Alors, il y a différentes interprétations. On pense qu'il y a un legs ou quelque chose d'autre en souffrance, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure, là. Et puis, on est mis sur la piste, en fait, du médium qui provoque ça, parce que la femme du propriétaire est très agitée, est très bouleversée, elle rentre, elle sort à tout bout de champ.
Oui. Et donc, elle est enceinte.
Et elle était enceinte, voilà, de son troisième enfant.
Oui.
Donc, il est vraisemblable que tout cela soit dû à elle. Alors, quant aux pierres, elles pouvaient avoir jusqu'à 50 degrés de chaleur. C'est tout de même extraordinaire.
Mmh.
Alors, des jeunes gens pensent que c'est dû à une malédiction. Donc, les autres pensent que c'est dû à un mort qui n'a pas le repos. D'autres pensent qu'il s'agit d'esprits qu'il faut conjurer par des formules cabalistiques. Et alors, à ce moment-là, Là, je vais vous lire tout de même le petit passage.
Oui, hein. Allez-y. Ah.
Donc, il voulait réciter des formules kabbalistiques. Mal leur en a pris. En ce moment, une grêle de pierres tombe sur eux et elle les frappe tous du premier au dernier. Un carabinier se voit emporter son chapeau. Un est frappé au bras, l'autre à la tête. Tel qui a le nez long est blessé, sur celui-ci à sang. Bref, le moment fut tragique et à minuit précis, après cette grêle de pierres, tous jugèrent à propos de quitter cette maison pour regagner leur habitation. L'épouvante s'empara des personnes. C'est magnifique. Si vous avez le nez long. Hein.
Oui, c'est mon cas. Malheureusement.
Voilà, donc attention, n'allez pas dans les chalets hantés.
Je serai prudent, je suivrai votre conseil. Et le rapporteur, le curé donc.
Oui, alors fait venir un autre curé, le curé de la tuile, hein, qui prononce des exorcismes. Bon, on croit que ça va marcher, eh ben non. Vers 10h30, c'est-à-dire quelques heures juste après l'exorcisme, les pierres recommencent à tomber. Et surtout, les pierres font des zigzags.
Hein, ça, c'est impressionnant, oui.
Lorsque je vous disais que ça défiait les lois de la physique, c'est vraiment ça. Ça, c'est extraordinaire, je trouve.
Oui. Il y a un soir où ils sont une vingtaine, dont celui à qui on doit, le curé à qui on doit oui. ce récit, à s'être enfermé dans la salle principale du chalet.
Oui.
Et certains ont le malheur de dire « Moi, je ne partirai pas quoi qu'il arrive ».
Oui, ben, ils se font éjecter, littéralement.
Et à partir de là, les coups commencent à pleuvoir, les cailloux oui. commencent à tomber de rue, mais arriver de manière horizontale, verticale,
oui.
Même par en dessous, c'est-à-dire de bas en haut.
Oui. Et puis vous avez, alors, pour finir, tout de même, le détail de la main glaciale, que j'ai beaucoup apprécié.
Allez-y, racontez-nous.
Ah bien, un des individus qui reçoit un fort soufflet déclare qu'il a senti une main glaciale. Or, dans les histoires de poltergeist, c'est un élément rare, mais qui existe tout de même et qu'on rencontre. À savoir, vous avez une main, la main fantôme. Moi, j'appelle ça la main fantôme. Mmh. Une main qui donne des claques ou qui se montre comme ça, mais on peut la toucher et elle est toujours glacée. Mmh. Alors ça me rappelle une nouvelle de je ne sais plus quel auteur anglais, qui avait intitulé cette nouvelle justement « La main fantôme ». On la voyait pas, mais on la sentait.
Oui. Et ce récit, ce compte-rendu, vous le publiez dans votre livre, dans sa quasi-intégralité, hein, je crois.
Oui.
Et avec les signataires donc de ce compte-rendu à la fin. L'histoire est très longue, avec des péripéties de tout ordre, avec, on le rappelle, encore des personnes dignes de foi, des témoins réellement solides, qui étaient venus d'ailleurs parce qu'ils étaient représentés, ils étaient représentants d'une certaine crédibilité, chacun dans leur domaine. Alors, qu'avez-vous pensé en découvrant cette histoire ? Vous, en tant que Claude Lecouteux, en train d'écrire un livre sur les poltergeists, là, vous êtes dit, c'est bon, là, je tiens pas le cas du siècle, mais enfin, pas
non,
loin.
Mais que c'était un cas exemplaire. Mm-hmm. Parce qu'à l'intérieur de ce cas, j'avais littéralement toutes les interprétations que j'avais réussi à dépister sur une longue période. J'avais vraiment tout. Ça faisait la synthèse. Puisqu'on avait les avis, hein, les uns, c'est du diabolisme,
oui.
Les autres c'est de la sorcellerie, hein, malédiction, mm-hmm. Les autres c'est un mort, les autres c'est un esprit, donc esprit, lutin, kobold, etc.
Oui.
On a absolument tout représenté dans ce texte en fonction des individus présents.
Mm-hmm.
Ce qui provient qu'il n'y a pas une interprétation, enfin il n'y avait pas une interprétation, on avait une interprétation dépendante totalement du milieu socioculturel, et des connaissances des individus.
Oui. Mais pour conclure, Claude Lecouteux, est-ce que vous vous rendez bien compte du mal que vous avez fait et que vous faites en publiant ce livre à tous ceux qui, jusqu'à maintenant, croyaient ou croient encore aux fées, aux lutins, au petit peuple, aux esprits des rivières, des maisons, etc., en levant ce voile, en disant, écoutez, non, c'est visiblement à la lumière de ce que j'ai découvert, ça n'est que, entre parenthèses, des phénomènes de poltergeist.
Eh bien non, 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 là je ne suis pas d'accord. Je suis l'avocat des ressortissants du petit peuple, parce que maintenant, on saura exactement qui ils sont à partir du moment où on aura réussi à démêler les amalgames. Mmh. Et donc, eh bien, il y en a ceux, on pourra savoir ce qu'est un vrai lutin, un vrai kobold, et pas seulement une espèce d'hybride lutin poltergeist, corrigan poltergeist, etc.
Ouais.
Donc je leur rends leur identité.
Ah, c'est comme ça que vous le voyez, vous.
Voilà, exactement. Ouais.
Parce que là, finalement, vous enlevez une espèce de couche qui recouvrait les phénomènes de poltergeist que on commence à bien connaître dans certains milieux scientifiques,
oui.
Et que l'on a nommé diablerie, etc., etc., oui. Durant des siècles. C'est quand même, c'est assez extraordinaire comme découverte, comme éclairage.
Oui. Oui, oui.
Ah si, quand même, vous avez fait un boulot extra. Enfin, je trouve une trouvaille, pour ne pas dire découverte, assez extraordinaire. Ça éclaire d'un jour nouveau tout un tas de récits.
Oui, mais ça c'est vraiment le but. Hein. Mm. Je veux dire, démystification, si on voulait utiliser
oui,
un grand mot.
Oui.
Hein.
Oui, oui.
Démystification. Tout simplement, montrer les choses telles qu'elles sont.
Et qui sont en fait extrêmement humaines.
Mais à 100%. Et si vous voulez, c'est pour ça que c'est vraiment de l'anthropologie, parce que à chaque fois, vous avez une image de l'homme, de ses espoirs, de ses frayeurs, de ses tensions, et c'est pour ça que j'aime ces sujets.
Oui. Claude Lecouteux, enfin, pour les lutins, c'est quoi un lutin, finalement, maintenant que vous l'avez dépouillé de ses capacités à faire des farces, à bouger des objets dans une maison, à faire tourner les tableaux autour de leurs clous, finalement, il lui reste quoi ?
L'esprit. Disons, son caractère de génie topique,
c'est
domestique. Donc, c'est le génie de votre maison. C'est le grillon du foyer, tiens, voilà.
Ah.
Voilà, c'est le grillon du foyer.
C'est beaucoup plus poétique comme dimension, finalement.
Oui, mais si vous avez votre lutin, j'ai des tas de proverbes qui disent que si on a un lutin, ben, on connaît le bonheur, on a la richesse, etc. Il y a des tournures de phrases en allemand qui disent d'une personne qui est riche, qui devient riche subitement, « Oh, lui, il a un lutin, etc.
Ouais. »
Donc, vous voyez, le lutin, c'est tout de même quelque chose de sympa, même si de temps en temps, il vous fait des niches ou comme ça. Mais s'il fait des farces, il ne lancera pas de pierre.
Oui, le vrai lutin. Est-ce que vous êtes intéressé à ce fameux cas de la clinique d'Arcachon?
Oui, ben
où
on
il y a eu des jets de pierre.
Oui, oui, mais on sait que c'était une supercherie. Du reste, je l'ai mis dans les notes de mon livre. Bon. Non, mais ça prouve, il y en a toujours eu, hein, parce que regardez aussi au XVIe siècle, là, j'en ai rapporté un aussi.
Oui.
Et qui est assez intéressant dans le château, là, où on a découvert que, finalement, on utilisait la croyance de poltergeist pour mettre les gens en fuite qui occupaient indûment le château.
Oui. Pour conclure, Claude Lecouteux, sur quoi êtes-vous en train de travailler actuellement ?
Les forgerons mythiques.
Ah, bien. Ah oui, oui, oui.
Oui.
Si je me souviens bien, si ma culture générale me fait pas trop défaut, parce que bon, des fois, Mime était un forgeron mythique, c'est ça?
Oui, par exemple.
Hein, celui du Valhalla, enfin.
Oui, mais cherchez beaucoup plus près de nous un saint sympathique, extraordinaire forgeron, Saint Éloi.
Ah bon?
Ben oui. Mais oui, mais oui. Oh, vous avez de quoi faire une émission sur Saint-Éloi. Hein.
Il était forgeron.
Mais oui, il n'était pas seulement orfèvre. Il était, enfin, orfèvre dans la réalité, mais
oui.
Dans le mythe, il est forgeron.
Mm-hmm.
Et oui, c'est un saint qui a la particularité de couper la patte des chevaux pour les ferrer plus facilement. Et quand il a fini, il remet la patte en place.
Ah, c'est pas mal.
Eh oui.
Effectivement, c'est beaucoup plus pratique.
Ah, nettement.
C'est vrai, c'est vrai. Je sens que je vais avoir le plaisir, si vous le voulez bien, de vous retrouver dans mon émission, Claude Lecouteux.
Oui, mais là, ça sera pas avant quelques années, parce que l'enquête, il y a qu'un an que je l'ai commencé. Hein.
Très bien. Je rappelle donc le titre de votre livre, La Maison Hantée, avec comme sous-titre Histoire des Poltergeists, c'est aux éditions Imago. Vous serez également à l'Institut Métapsychique International. Bon, là, c'est à Paris. Pour nous autres provinciaux, au mois de décembre, comme on a l'occasion de, comme on dit chez nous, monter à la capitale, aller voir la famille qui s'est exilé dans le froid et les brumes. On pourra éventuellement, si les dates concordent, aller vous écouter en conférence. Vous allez donner beaucoup de conférences. Je sais que vous êtes passé à Montpellier il n'y a pas longtemps.
Ah, c'était sur les vampires, là.
Voilà, c'était sur les vampires. Vous acceptez volontiers de donner des conférences sur les sujets dont traitent vos ouvrages, ou vous préférez rester dans votre cadre, entre guillemets, universitaire?
Oh non, non. Moi, je suis pour la plus large diffusion possible des connaissances.
Bien. Donc, si ceux et celles qui nous écoutent appartiennent à des organismes, des associations qui ont envie de vous inviter à une conférence, ils peuvent vous soumettre en tout cas leur idée.
Voilà.
Voilà, via Les Aventuriers de l'Étrange sur Sud Radio. Merci beaucoup, Claude Lecouteux.
Eh ben, c'était un plaisir.
Partagez également. Et puis, le bonjour à votre lutin.
Oh, ça, ben, vous savez, il est accroché au mur à côté de moi. Hein.
Bon, mes amitiés, donc. Merci beaucoup, Claude Lecouteux. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Les Aventuriers de l'Étrange. Louis Bénédit. Sur Sud Radio.
Éric Fierson, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes l'animateur principal du site maison-hantée.com. C'est à ce titre que je vous reçois parce que vous avez eu le plaisir de rencontrer Claude Lecouteux, d'aller chez lui même directement dans sa maison hantée, comme vous dites sur votre site internet. Claude Lecouteux, avec qui donc je viens de passer une heure et demie sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'Étrange. Un premier sentiment comme ça après avoir lu son livre, qu'en pensez-vous?
Alors, ben, je trouve d'abord l'ouvrage très intéressant et surtout un travail de fourmi qui a été effectué.
Ouais.
Parce que d'après mes souvenirs, je n'ai effectivement pas le souvenir d'avoir lu un livre aussi documenté sur le sujet des poltergeists, surtout dans le temps, à travers les siècles, en langue française.
Mmh. Ouais. Voilà. Et la rencontre avec le personnage lui-même, parce que c'est un véritable érudit dans ce domaine. Hein.
Alors, moi, je ne l'ai pas rencontré. C'est mon collaborateur qui a fait l'interview. Mm-hmm. Je le connais seulement à distance, si je puis dire. Mais effectivement, je suis étonné de l'érudition qu'il a sur le sujet. On voit qu'il a tout à fait, et surtout qu'il a fouillé dans les coins les plus sombres pour aller chercher les informations concernant autant les poltergeists d'ailleurs que tous les sujets qu'il a abordés par le passé.
Oui. Alors, Éric Fierson, en tant que fin connaisseur, amateur éclairé, spécialiste des maisons hantées et donc des phénomènes de poltergeist, que pensez-vous de sa théorie, enfin la théorie qu'il défend donc dans ce livre, selon laquelle tout ce que l'on appellerait jusqu'à maintenant, tout ce que l'on a appelé jusqu'à maintenant, phénomène dû à des lutins, des farfadets, des gnomes, etc., ne serait en fait que la traduction des phénomènes de poltergeist?
Oui, eh bien, je vous dirais que, alors, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de choses, en fait, qui se mélangent, mais il est vrai que moi, tout d'abord, je n'ai jamais lié les poltergeists aux fantômes, ce sont deux choses différentes.
Mmh,
et puis, après, on interprète ces phénomènes selon notre culture, selon notre éducation. Je vais prendre un exemple tout bête. Hein.
Ouais.
J'ai enquêté sur la fameuse pharmacie hantée de Saint-Georges-du-Vièvre qui avait fait beaucoup couler d'encre à l'époque, c'est-à-dire dans les années 20. Je suis retourné dans ce village. Évidemment, le phénomène de poltergeist a cessé hein, depuis que la bonne de la pharmacie est partie du lieu, d'ailleurs. Et quand j'ai interrogé la population locale, pour certains, c'était une histoire de sorcellerie. Pour d'autres, c'était des fantômes. En fait, tout le monde percevait l'événement...
Selon son prisme culturel à lui.
Exactement, ouais. Tout à fait. Donc, il y a effectivement un fait. Ensuite, ce que l'on va voir de ce fait, ce n'est qu'une interprétation.
Tout à fait. Ouais. Donc vous rejoignez son propos dans le sens où ce que l'on attribuait jusqu'à maintenant à travers sa culture à des djinns pour les musulmans, à des lutins pour le monde judéo-chrétien ou celte, en revanche n'est qu'une interprétation de phénomène de poltergeist.
Voilà, tout à fait. J'ai pour anecdote aussi, hein, il y a peu de temps, je parlais avec une personne, quelqu'un de très cultivé et qui possède un château. Et lui m'affirmait que le château était habité par des fées. Donc évidemment, ça peut paraître surprenant là, comme ça d'entendre ça. Moi, j'ai visité le château. Oui. Effectivement, il y a certaines, je ne veux pas dire qu'il y a des fées, mais il y a une énergie, si je puis dire, qui s'en dégage. Maintenant, certains vont les percevoir, c'est fait comme des fantômes. Encore une fois, voilà, on ouais. habille la chose selon nos références culturelles. Ouais.
Alors, vous avez raison de le faire, il faut faire la distinction entre les phénomènes de poltergeist et les fantômes, qui sont deux phénomènes complètement dissociés, complètement différents. Les poltergeists ont leur origine dans le vivant. C'est-à-dire, c'est l'être humain qui produit de manière inconsciente les phénomènes de poltergeist. En revanche, le fantôme est plutôt relié à un autre phénomène qu'on ne connaît pas encore, enfin, à des racines qu'on a du mal à apercevoir. Oui. Pour vous, ce serait quoi? Expliquez-nous en quelques mots ce qu'est le phénomène de fantôme, finalement.
Alors oui, effectivement, parce que si l'on s'attache à la définition du dictionnaire, un fantôme est l'esprit d'un défunt. Alors évidemment, encore une fois, c'est une interprétation puisqu'on ne sait pas au jour d'aujourd'hui si ce sont véritablement les esprits des défunts. On peut le supposer dans certains cas, mais pour moi, je dirais que je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais un fantôme est pour moi une masse d'énergie qui tend à modifier l'environnement par des méthodes paranormales, c'est-à-dire que l'on ne connaît pas. Ce sont avant tout pour moi des masses d'énergie.
Quand vous dites justement une masse d'énergie, est-ce que vous pouvez être plus précis dans votre définition? C'est une énergie que l'on ne sait pas quantifier encore pour le moment, mais qui serait, je ne sais pas moi, d'origine minérale, un gaz qui s'échappe de terre, ce serait quoi?
Alors, on va faire un petit retour dans le temps. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. Mais il y a Albert Einstein qui a démontré qu'on ne pouvait pas créer de l'énergie, on ne pouvait pas la détruire non plus. On peut la stocker, on peut la transformer, mais pas la détruire ni la créer. En sachant que l'être humain est composé d'énergie, à la fois électrique et chimique, où va cette énergie quand nous mourons? C'est là qu'est la vraie question.
Oui.
Alors, est-ce que
cette énergie résiduelle subsiste?
Exactement. Et je pense que les fantômes, ou du moins les cas que l'on rencontre le plus souvent, sont des énergies résiduelles, qui sont stockées, qui sont enregistrées par la matière. Qui sont enregistrés donc par la matière dans lequel où le lieu l'événement la mort de la personne s'est déroulé.
Oui, c'est-à-dire que on prend l'exemple d'une maison ou d'un château, les murs qui étaient présents, si j'ose m'exprimer ainsi, lors du décès de quelqu'un de manière violente ou de manière dramatique ou quelque chose comme ça, ferait comme un disque dur d'un ordinateur qui enregistre l'information.
Voilà, exactement. Essentiellement les matières nobles, que ce soit la pierre, le bois, la terre, aussi l'eau, font office de disque dur. C'est comme si au moment de la mort de la personne, surtout lors d'une mort brutale et violente. Ouais. C'est comme s'il y avait une explosion émotionnelle, une décharge émotionnelle qui éclabousserait cette matière et qui emprisonnerait cette énergie.
Laquelle énergie est restituée ou est toujours présente à l'état latent et favoriserait l'émergence de certains phénomènes?
Exactement. C'est-à-dire, alors évidemment, il y a plusieurs paramètres. Hein, c'est d'ailleurs, c'est pourquoi on appelle ces apparitions des apparitions atmosphériques. Donc il y a tellement de paramètres pour que l'on puisse être témoin de ce type de choses, qu'il est vrai que c'est totalement aléatoire. Et qu'en même temps, je rebondis là-dessus parce qu'une personne hier me posait la question si les lieux étaient hantés plus la nuit ou le jour. En fait, ces lieux hantés, ou que l'on dit hantés, sont hantés autant le jour que la nuit, sauf que ça se révèle certainement plus la nuit. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'aussi notre inconscient est plus ouvert,
plus amené
à percevoir l'invisible.
Oui, tout à fait, je comprends. C'est une théorie assez intéressante, mais difficile à prouver scientifiquement, évidemment.
Bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, les preuves, si je puis dire, sont très rares, sont même presque... je n'arrive pas
à formuler.
En fait, je ne m'attache plus à la preuve. Je me suis rendu compte avec l'expérience, avec le temps, que c'était une espèce de mur. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne pouvait plus aller plus loin. J'essaie de voir. Je pars du postulat que les fantômes existent, que les gens les perçoivent. Certaines personnes les perçoivent, évidemment, et d'ailleurs, quand moi je les interroge, je n'ai aucun doute là-dessus, ils sont parfaitement sincères, à part quelques affabulateurs, mais on les repère très vite, mais en règle générale, ils les perçoivent. Et je m'attache plus à la question, quel sens il y a derrière tout ça? Pourquoi ils apparaissent à un moment bien précis, à des personnes bien précises? Vous voyez? Parce que il est vrai que le problème des preuves est un problème épineux. Si je par exemple je peux montrer des photos avec des formes lumineuses, des formes que certains qualifieront de fantômes, il y a aussi des vidéos. Mais est-ce que l'on peut affirmer qu'une photo ou une vidéo est une preuve? Je dirais que non. On va voir quelque chose d'étrange sur la photo, mais de là à dire que c'est un fantôme, c'est encore une fois une interprétation. Vous voyez?
Oui, c'est exact. Sans compter le fait que la photo peut être contestée avec les systèmes numériques dont on dispose actuellement, qui font qu'on peut facilement truquer une photo, bien sûr.
Bien sûr, c'est pour ça que je conseille tous ceux qui veulent se lancer dans la chasse aux fantômes, évidemment de se munir d'un appareil photo numérique, mais aussi argentique. Parce que avec un argentique, il y a une pellicule, et là, il est un petit peu plus difficile de truquer
la photo,
le négatif.
Il est plus facile de prouver, en tout cas, que la photo n'a pas été truquée.
Oui, tout à fait.
Vous parliez tout à l'heure d'un cas concernant une pharmacie hantée. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous le détailler un peu plus?
Alors, c'est simple, ça s'est passé dans les années 20. C'était donc à la pharmacie de Saint-Georges-du-Vièvre, qui se situe dans l'Eure, donc en Normandie. Et des phénomènes ont commencé à se faire jour. Mais ça a duré pendant une assez longue période. C'est-à-dire que dans la pharmacie, les bocaux traversaient les pièces, mais des bocaux qui pesaient plusieurs kilos quand même.
Ah oui, d'accord.
Les bocaux qui se déplaçaient, qui se mettaient à léviter, les objets, les tiroirs, les portes qui claquaient. Enfin, ça a été vraiment... et à chaque fois, parce qu'en fait, le pharmacien à l'époque a tenu un journal du jour bien précis de tous les phénomènes. Et donc ça, c'est un témoignage intéressant. Donc à la base, il faut aussi connaître la psychologie du pharmacien. C'est quelqu'un qui était rationaliste, très rationaliste. Donc, il a méthodiquement répertorié tous les phénomènes jour après jour. Évidemment, les gendarmes sont venus. Ils ont eux aussi été témoins des phénomènes, mais sans trouver aucune explication. Mais à chaque fois que le phénomène se produisait, la servante qui travaillait dans la pharmacie était présente. Mm-hmm. Et quand elle s'éloignait, il n'y avait plus de phénomène.
Et là, ils ont réussi à en tirer des conclusions. Enfin, je veux dire, ils s'en sont aperçus tout seuls. Ça a été un processus par. Ils ont procédé par élimination et ils sont arrivés à cette conclusion. Ou c'est vous qui, après avoir enquêté sur ce dossier, êtes arrivé à cette conclusion?
Alors, la conclusion du poltergeist, hein, vous voulez
oui,
dire.
Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que l'origine serait cette servante, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc moi, c'est moi qui est arrivé à cette conclusion, parce que la conclusion est que, ils n'ont pas eu le fin mot de l'histoire. Hein. Il faut se rappeler que l'histoire, cet événement s'est déroulé dans les années 20.
Oui.
Après, on a parlé pour certains d'une affaire de fantômes, de hantises, et pour d'autres, c'était une affaire de sorcellerie. On disait que la servante était envoûtée, était ensorcelée,
oui.
Évidemment. Mais jamais il y a le phénomène de poltergeist est évoqué. D'autant plus qu'à cette époque, ces phénomènes n'étaient pas aussi, médiatiquement couverts qu'aujourd'hui.
Oui. On le rappelle, cette histoire de pharmacie hantée s'est déroulée dans les années 20. Hein.
Voilà.
Vous êtes allé questionner la population. C'était quand?
Alors, c'était il y a maintenant, ça doit faire 2 ans à peu près, deux ans et demi.
On est dans les années 2000, quoi.
Hein, voilà, c'est voilà. Ça.
Et ça restait toujours présent parmi la population?
J'ai pas entendu le début de la question.
Pardon. Cette histoire restait présente dans l'esprit de la population, malgré que ce soit déroulé dans les années 20?
Ah, bien sûr, tout à fait. C'est très prégnant. J'ai même d'ailleurs à la pharmacie, puisque cette pharmacie existe toujours.
D'accord.
Je suis allé voir la propriétaire actuelle.
Bien
et
sûr.
Qui effectivement a eu vent de cette histoire. Et tout le monde en parle encore, quoi. Tout le monde, la population parle de la pharmacie hantée, mais tout le monde est au courant. Et chose étonnante, la personne, la fameuse bonne servante qui était adolescente à l'époque,
oui.
Qui allait rentrer dans sa vie d'adulte. En tout cas, moi, quand j'y suis allé il y a 2 ans, quand j'ai enquêté, celle-ci est encore vivante.
Ah bon ?
C'est assez étonnant. Elle est plutôt jeune, évidemment. Elle est en maison de retraite.
Oui, oui.
J'ai eu l'occasion de parler avec son frère,
oui.
Qui lui aussi est vivant.
Oui.
Mais par contre, elle ne veut absolument plus entendre parler de cette histoire. Donc, cool, c'est des jours heureux à la maison de retraite, dans une ville qui n'est pas très loin de ce village.
Très bien. Éric Fierson, une pause. On se retrouve dans quelques instants pour s'intéresser cette fois-ci à l'actualité du site dont vous êtes l'animateur, donc Maison Hantée. maison-hantée.com. On va y revenir dans quelques instants. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédi. Sur Sud Radio.
Dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, je vous recommande un site internet. Ça n'est pas la première fois d'ailleurs que l'on en parle, c'est la seconde fois même, avec son animateur qui est mon invité ce soir, Éric Fierson, qui est en ma compagnie. Ce site a pour adresse maison-hantée.com, un site internet ô combien intéressant si vous intéressez au fantastique en règle générale, aux maisons hantées, bien entendu, en particulier. Éric Fierson, quelles sont les nouvelles de votre site internet?
Alors, les nouvelles, en ce moment, il y a... Alors, c'est vrai que c'est un petit peu... au ralenti, les dernières news ont été mises en ligne. Il y a eu quelques petites news, là, aujourd'hui, par exemple,
oui.
Sur des livres qui sont sortis. Mais les gros dossiers ça fait peut-être un mois et demi. Donc on peut retrouver notamment en ligne le premier épisode d'une chasse aux fantômes que j'ai faite en juin avec l'auteur et grand amateur de fantômes devant l'éternel, Michel de Greff.
Oui, et cette chasse aux fantômes vous a amené où?
Alors, nous nous sommes cantonnés en Normandie, à la basse Normandie.
Oui. Hein,
nous sommes partis de Cherbourg, de la pointe extrême de la basse Normandie,
oui,
la Manche.
Oui.
Et nous avons descendu la Manche en passant par l'abbaye de Blanchelande, la fameuse lande de l'Essé, qui est réputée comme comme étant la lande la plus hantée de France.
Ah bon?
Oui. Il y a nombre de témoignages d'apparitions de dames blanches. On trouve tout un bestiaire du fantastique là-bas. C'était assez extraordinaire.
D'accord.
D'ailleurs, si on se plonge dans les œuvres de Barbet d'Aurevilly, il en parle beaucoup, puisque lui était originaire de là-bas. Il est normand.
Ouais.
Et il faut savoir que Barbet d'Aurevilly, quand il décrivait ses scènes fantastiques, prenait souvent comme racine des faits divers. Des choses qui se sont réellement passées.
Ouais.
Donc nous avons ce dossier sur la Normandie hantée qui nous mène de la Manche, ensuite dans le Calvados et enfin dans l'Orne. Une deuxième partie sera amenée à se faire.
Ouais, ouais.
Et puis il y a aussi l'interview de Michel de Greff qu'on peut retrouver sur le site. Et puis il y a bientôt, c'est-à-dire avant la fin de l'année, il y aura deux gros dossiers, notamment sur l'Islande hantée, l'Islande et puis un petit peu le Groenland, le Spitzberg,
ouais,
la Norvège, tous ces pays nordiques.
Est-ce qu'ils ont une culture du fantôme qui est différente de la nôtre?
Alors, étonnamment, il y a des choses qui se rejoignent, évidemment, et il y a effectivement une différence dans la forme, si je puis dire.
Ah, oui, laquelle?
Alors, j'étais étonné là-bas, la première fois que je suis allé en Islande, parce que j'y suis allé plusieurs fois depuis, j'étais étonné de constater que les trolls étaient une réalité pour la population, c'était vraiment une réalité. Même la présidente à l'époque, la présidente de la République d'Islande, s'exprimait assez librement sur le sujet à la télé. C'est assez extraordinaire.
Je vois pas ce qui vous étonne, les trolls existent.
Les trolls existent, effectivement, mais avec cette force de conviction dans une société occidentale,
oui,
ça devient rare.
C'est assez rare, oui, c'est même unique, je pense.
C'est même unique, et je vous dirais même qu'à tel point, quand une route doit se construire en Islande,
ouais,
parce qu'il faut savoir, c'est une île volcanique, hein, il y a donc des paysages assez déchiquetés,
c'est
avec des rochers
rude, hein,
aux formes un peu bizarres,
ouais, ouais,
et le plus naturellement du monde, la population me faisait remarquer que ces rochers aux formes étranges étaient en fait les habitations des trolls.
Bien.
Mais le plus sérieusement du monde. Et en fait, comme pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, quand on doit construire une route là-bas, c'est tout un remue-ménage qui est fait pour déplacer cette pierre. Si le tracé de la route doit passer par cette pierre,
mm-hmm,
cette pierre est déplacée. Ou alors, on contourne la pierre, on fait contourner la route.
Ah bon?
On fait contourner. Ah oui, c'est assez étonnant, assez effarant.
C'est au moins, enfin, vu d'ici, c'est vrai que ça peut paraître tout à fait idiot ou superstitieux, mais je trouve que c'est très respectueux, au moins de leur histoire et de leurs racines ou de leur croyance finalement.
Oui, oui, tout à fait, complètement. C'est tout à fait juste. Il y a parmi dans la population un grand respect par rapport à tout ce qui est perçu comme surnaturel ou en tout cas mythologique,
ouais,
il y a un profond respect. Alors peut-être qu'ils côtoient plus, ou plutôt, je dirais peut-être qu'ils sont plus à même de percevoir l'invisible dans ces contrées un petit peu sauvages, isolées, Mm-hmm. Peut-être qu'ils sont plus ouverts à l'invisible.
Oui. Enfin, on dit, enfin, il y a une phrase qui a été le titre d'un roman de bande dessinée d'un ami à moi qui disait il faut y croire pour le voir. Ça ressemble à ça finalement.
Oui, tout à fait, tout ouais. à fait. Mm-hmm. C'est un petit peu ça. Ouais.
Ouais.
Mais c'est un pays assez passionnant avec une atmosphère assez extraordinaire et on sent. On peut presque palper le surnaturel à chaque coin de rue, si je puis dire.
Mmh. Pour eux, ça n'a rien d'extraordinaire, ça fait partie du normal.
Ça fait partie du normal. Même les citadins, ceux qui habitent dans la grande ville, notamment
oui.
la capitale Reykjavik,
ouais, ouais,
vous diront, oui, bon, tout ça, c'est peut-être des histoires, mais on sent derrière quand même... on sent qu'ils en sont pas persuadés que
oui.
ce sont des histoires.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, oui. Et ailleurs où vous êtes allé, enfin du moins où ce dossier va nous mener, en Norvège, c'est ça, et au Danemark?
Alors il va y avoir effectivement une partie au Danemark, mais ce sera le prochain dossier, donc ce sera l'Islande,
mm-hmm.
la Norvège,
ouais.
un peu le Spitsbergen qui se trouve au nord, au-dessus de la Norvège, entre le pôle nord et la Norvège.
Et hors Islande, il y a encore cette présence des racines et du paranormal où ils ont pris plus de recul et ressemblent plus à notre vieille société européenne?
Vous parlez de quel
fantômes,
pays en dehors de l'Islande?
Norvège, oui, voilà, oui, Norvège et.
Et ils sont encore très ancrés. La Norvège, j'ai découvert une société à la fois très très moderne, oui. mais aussi à la fois très axée sur le surnaturel, sur la mythologie et notamment les mythologies nordiques, hein, évidemment.
Mm-hmm.
Mais effectivement, on sent que le surnaturel est là, que les gens, d'abord la population, en parlent plus librement et peut-être aussi de manière plus, je vais pas dire objective, mais on sent qu'il y a un intérêt sincère, il y a moins de superstitions, on parle moins avec des superstitions quand on va dans les pays nordiques que mmh. quand, par exemple, on visite les pays latins.
Oui.
Vous voyez?
Oui. Oui, je comprends.
Il y a quand même un regard critique sur les phénomènes.
Ouais. Et ces dossiers qui promettent d'être passionnants seront en ligne quand? Avant la fin de l'année?
Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, donc 2007.
Ouais.
Je ne pourrais pas vous dire la date exactement parce que je suis en pleine... c'est la dernière ligne droite... je vais vous donner le scoop, hein, puisque ça va être la première fois que je vais l'annoncer. Mais un livre va bientôt sortir sur les enquêtes que j'ai effectuées.
Intéressant, oui.
Donc un livre version papier. Hein.
Tout à fait, oui, oui.
Et donc je suis dans la dernière ligne, dans la dernière ligne droite, et il devrait sortir janvier 2008. Hein.
Bon, chez quel éditeur?
Alors, pour l'instant, je suis tenu au secret parce que tout n'est pas encore fait. Mais nul doute que je vous le dirai.
Avec grand plaisir. Bon, sur toutes les enquêtes dans les différentes maisons hantées où vous êtes allé, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Parce que j'ai voulu faire écrire en collaboration avec mon associé Olivier Valentin, qui mmh. partage avec moi les tâches du site maisonhantée.com.
Oui.
J'ai voulu faire un livre qui était tiré de l'expérience. Parce que le problème dans les livres, en tout cas en langue française, qui parlent bien évidemment de maisons hantées ou de fantômes, il y a beaucoup de théories et je remarque que très peu d'auteurs se rendent sur place et enquêtent vraiment.
Hein. Oui.
C'est surtout des regroupements de témoignages ou en fait des histoires qui sont déjà parues dans des anciennes éditions, mais rarement d'enquêtes sur le terrain.
Mmh, c'est vrai.
Je voulais d'abord, ça a été la première chose, et la deuxième chose, évidemment ce livre n'aura rien de scientifique, hein, il faut l'aborder comme un voyage poétique, si je puis dire.
Oui.
au cœur de l'invisible, de ces histoires de fantômes.
Bien, ben écoutez, dès qu'il sortira, vous nous tenez au courant et j'aurai le grand plaisir à vous inviter à venir partager quelques minutes, quelques quarts d'heure, voire une heure ou deux dans Les Aventuriers de l'étrange à ce moment-là.
Eh bien, j'en serai ravi.
Parfait. Je vous remercie beaucoup en tout cas, Eric Fierson. Et puis, je recommande vraiment à ceux et celles qui nous écoutent d'aller faire un tour régulièrement sur votre site internet, donc maisonhantée.com, maison-hantée.com, le tout au singulier, et découvrir des livres, la nouveauté, les nouveautés, le fantastique. Il y a un très bon dossier sur le Festival de Deauville.
Oui, effectivement, je vais en parler. Puisque il y a bientôt, en janvier 2008, il y a la dernière nouvelle adaptée à l'écran de Stephen King, La Chambre 1408, film qui raconte l'histoire d'un chasseur de fantômes, justement.
Voilà. Et il y a du bon et du moins bon, hein, à Deauville, d'après ce que j'ai compris en vous lisant, hein.
Oui, c'est toujours un petit peu comme ça, hein, il faut trier.
Exact. Et il y a des articles toujours très intéressants, donc dans maison-hantée.com. Merci beaucoup, Eric Fierson, et à très bientôt sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange.
Eh bien, merci à vous.
Au revoir.
À bientôt.
Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit sur Sud Radio.
Information importante, si vous voulez retrouver cette émission pour la réécouter tranquillement, si vous n'avez pas pu l'écouter en entier, direction le site psyland.org, psyland.org, vous retrouverez tous les podcasts, toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange. On se retrouvera vendredi et samedi prochain. Merci à Mathieu Viguier qui a signé la réalisation de cette émission, Pierre Massias qui m'aide à la construire, et rendez-vous sur, évidemment, le mail si vous voulez m'écrire, étrange@sudradio.fr, ou encore au téléphone au 0826 300 300, dans la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange. Rendez-vous vendredi et samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien.
Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédit sur Sud Radio.